nous accueillons ce soir pour la dernière séance des séminaires que notre équipe de recherche littérature française du XXe siècle organise avec le groupe Fabula. Nous accueillons non plus un universitaire, un collègue, fut-il d'une autre discipline, mais un homme de lettres au sens ancien du terme, un écrivain, essayiste, poète, Gérard Massé, qui nous fait cet honneur. Et nous allons l'écouter pour comprendre en quoi le sujet sur lequel nous avons réfléchi pendant cette année le concerne particulièrement. Comme les autres, cet entretien va être enregistré et sera diffusé sur Fabula. Je vous indique que Gérard Massé a tenu à nous faire savoir qu'un texte enregistré n'était pas fait pour être transcrit et devenir impromptu un objet écrit. Cette séparation des ordres me paraît significative et je crois que nous veillerons à ce qu'elle soit respectée. Je passe la parole donc à Alexandre Geffen, peut-être.
Oui, je veux simplement rappeler quelques titres. Il est de coutume, lorsqu'on présente un écrivain, d'inciter sur la singularité de la place qu'il occupe dans la littérature française. Je crois que c'est le cas à plusieurs titres. D'une part, parce qu'il est difficile de situer l'œuvre de Gérard Massé dans ces grandes catégories que sont l'autofiction contemporaine, ou au contraire le lyrisme, le néolyrisme romanesque à la Pierre Michon, dont on a parfois rapproché. Il n'est pas plus proche du formalisme qui caractérise un grand pan de notre littérature. Il relève d'une catégorie d'écrivains dont le rapport à la littérature n'est ni dramatisé, ni mis en scène. Et accepte délibérément d'occuper une place, si ce n'est secrète, du moins discrète, à la jonction de genres que parfois on n'a pas la coutume d'imaginer rapprochés, comme l'essai et la poésie, la nouvelle et le conte, le récit historique et la méditation. Du poème en prose. Cette pratique de genre non donné d'avance, non prescrit, je crois, le caractérise beaucoup. L'entreprise de résurrection d'autrui, de voyage dans le rêve, d'essai par Métalepse où on participe au livre, qui le caractérise, passe par des essais sur les écrivains qui ne vont pas appartenir au genre canonique, je pense que Marielle pourra en parler mieux que moi, mais à des mutations sur un biographème qui vont faire l'objet d'une rêverie poétique associative. C'est le cas par exemple dans Ex Libris, qui évoque les figures de Mallarmé ou de Rimbaud, ou méditation sur un motif poétique, le manteau de Forcini chez Proust, qui est le fil d'Ariane des trois coffrets. Hein, Marielle, je crois que c'est ça.
Non, du livre s'appelle Le
Manteau de Forcini. Pardon, du Manteau de Forcini. Pardon, je parle de trois coffrets. Genre aussi originaux lorsqu'il s'agit d'écrire des vies antérieures, recueil de ce qu'on a pu appeler ensuite des vies imaginaires, qui évoque aussi bien la figure de Simonide que celle d'un mystérieux scribe égyptien, que d'autres figures plus proches de nous, le psychanalyste Clérambeau notamment. Conte historique, dans Le Dernier des Égyptiens, où je ne sais pas quelle caractérisation employer. Dernier des Égyptiens est une rêverie sur la vie de Champollion, où la fin de l'autonomie de la culture d'Inde américaine à travers l'exportation des Indiens en Europe et la transformation en objet de foire ou d'études croise le moment où Champollion entreprend le déchiffrement des mystères égyptiens. Les trois coffrets, qui est une rêverie où une rêverie parisienne permet de retrouver l'histoire d'un sarcophage et de plonger dans une antiquité poétique. Je ne parle pas non plus des activités de Gérard Massé comme traducteur, notamment traducteur de certains essais de Jean-Joachim Gambem, comme préfacier, ou encore comme photographe, qui est une entreprise qui l'occupe, je crois, beaucoup ces dernières années. Je crois que l'ensemble de ces œuvres, c'est là qu'on rejoint la perspective qui est celle de notre séminaire, se caractérise par une volonté de ne pas isoler la littérature du monde pour la diviniser, la mépriser, en avoir peur ou la haïr, mais d'essayer d'entreprendre la conquête ou la reconquête d'un rapport plus pacifié, ou des mots comme sagesse, méditation auraient une plus juste place, et où naturellement, plus naturellement, rêverie, poésie s'associeraient dans l'entreprise littéraire. Au contraire, on pourrait vraiment parler d'une réintégration de la littérature au savoir, dans le champ du savoir, qui rend caduque toute opposition entre livre et vie, entre monde et bibliothèque, d'où sans doute le fait que la catégorie qu'on a parfois pu employer de fiction érudite ou de roman érudit, qui semble caractériser des choses qui mêlent effectivement érudition et poésie, en réalité ne soit qu'une manière fort, fort superficielle d'évoquer l'œuvre de Germain. C'est pour caractériser mieux ce rapport du dehors de la littérature et de la littérature, on pourrait peut-être plus facilement parler d'un processus de nutrition, d'une double nutrition, de mise en résonance peut-être de savoir, où les savoirs de l'histoire, les savoirs de l'anthropologie, les savoirs de l'art, de l'archéologie, les savoirs de l'architecture même, ne seraient pas des objets isolés qui voudraient comme savoir, comme signe de reconnaissance, mais qui seraient des signes de reconnaissance de l'écrivain, où l'écrivain reconnaîtrait une part de son identité. Dans le cadre d'une vaste enquête sur l'autre, où la quête de soi, les thèmes de la rêverie, de la palingénésie, du voyage, s'entrecroisent avec une quête d'autrui, et qui conduit donc à des textes qui ne se situent pas véritablement dans la catégorie de la fiction littéraire traditionnelle, qui serait plus facilement caractérisable comme des récits, et qui sont parfois, je crois que vous le dites sans fausse modestie, sans vraie modestie, pardon, des réécritures, presque par collage. Hein, par collage. Je voudrais insister enfin, avant de laisser la parole à Gérard Massé, à la manière dont, s'il y a d'une part emprunt, mais là, vous voyez les précautions que j'ai voulu prendre pour parler d'emprunt, je crois que c'est plutôt un processus plus profond, de la littérature au savoir, il y a aussi une volonté de rendre des savoirs, de produire des savoirs ou des sagesses qui seraient plus spécifiquement littéraires, des savoirs qui seraient des savoirs intégrant le biographique, intégrant l'événementiel, des savoirs narratifs où l'écrivain, parce qu'il saurait les récits, ou les dirait, ou un rapport plus familier au récit, serait capable d'être anthropologue, en tant que l'anthropologue, et aussi celui qui prend en charge les récits d'autrui. Et je crois, pour illustrer cette volonté de produire un savoir plus proprement littéraire, je voudrais lire deux passages, un bref passage du dernier des Égyptiens, où on évoque la manière dont Champollion se situe au tournant du passage d'une connaissance intime, directe, de l'autre, à un moment analytique, où vous verrez le terme de froid, je crois, joue un rôle tout à fait net. Champollion n'a sans doute rien su de la fin désastreuse de l'aventure, mais entre les colonnes ouvragées du Louvre, au milieu des Grecs et des Romains pétrifiés, il a vu passer comme une ombre la tristesse du tropique. Et dans ce musée qu'il avait appelé de ses voeux, il a pressenti l'angoisse qui nous étreint aujourd'hui devant la disparition de l'homme qu'on allait mettre vivant dans des réserves avant de mettre sous vitrine ses outils, ses ossements, ses parures. L'homme, devenu pour nous, au lieu d'un mystère troublant et proche, un objet d'étude aussi éloigné que les anciens dieux et que le langage n'en finit pas de disséquer. Je crois que c'est un thème qui... Peut-être, ça serait une question à poser à Germain, c'est peut-être rapproché des mutations de Agamben sur la manière dont les sciences humaines sont. La naissance des sciences humaines se fait en même temps que celle des grands totalitarismes, en tout cas des grandes entreprises d'instrumentalisation de l'homme, mais qui va essayer de rendre à la science de l'homme son vrai sens et son vrai rôle contre un savoir mathématisé, rendu artificiel. Dans ce livre dont je crois que Germain va surtout raconter la démarche, qui est Le goût de l'homme, c'est la conclusion de la préface qui fait préambule, je crois, nous permet de comprendre la place tout à fait importante que l'œuvre de Germain a dans la littérature contemporaine. Je vais vous lire donc quelques lignes. Si je les retrouve. Voilà. La nouveauté au XXe siècle, ce n'est pas que l'homme soit devenu un objet d'étude, mais un objet de recherche et d'expérimentation à grande échelle, une chair à canon finissant par alimenter les laboratoires. Les sciences qu'on appelle humaines ont accompagné le mouvement, mais à distance, et sans faire couler le sang. Et je crois que c'est dans la manière que la littérature peut avoir de faire que les sciences humaines soient autre chose qu'une manière d'accompagner le sang qui coule, que la place de Gérard Massé est grande pour nous. Voilà. Je vais maintenant lui laisser la parole. J'espère qu'il pourra continuer.
Vous auriez pu les garder. C'était très agréable d'ailleurs à entendre tout ça. Et vous avez dit beaucoup de choses. Bon, ben, bref, vous avez compris que c'est une façon de prendre mon élan. Merci d'être là. Bonjour. Et puisque vous avez cité le préambule du goût de l'homme, je voudrais juste continuer et citer la deux dernières phrases. C'est un livre où il est question de Lemesil, de Clastres, de Griol, de façon critique d'ailleurs. Et je parle à la fin, j'évoque le musée de l'homme, non pas celui du Trocadéro, mais le musée imaginaire que nous portons tous en nous, le musée où les morts se mettent à parler, où les vivants échangent leur rôle et leur masque, redisent les anciennes légendes en les interprétant, relance l'imaginaire en s'inventant des origines comme de vieux enfants parfois trop crédules. Et tout ceci, pour ajouter cette phrase, ce qui permet de vérifier encore une fois ce que la littérature essaie de nous apprendre depuis toujours, qu'il existe une autre communauté que celle du sol ou du sang, la communauté des hommes qui se souviennent des mêmes récits. C'est-à-dire une communauté de lecteurs à travers le monde, aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, une communauté dont les membres ne se sont pas recrutés entre eux, ne se sont pas cooptés, ils ne savent même pas toujours qu'ils existent, ils ne peuvent pas se reconnaître, parfois il y a des signes quand même, il y a des indices, enfin très rapides. Bon, c'est une communauté en tout cas mouvante, éphémère, qui se reforme sans cesse et qui est donc libre. Ben voilà. La littérature, pour moi, ça a ce sens-là. Bien, à part ça, alors pour essayer de m'inscrire dans votre programme de cette année, je vais annoncer quelques petites réflexions, ou plutôt témoigner d'une expérience. Dans la mesure où je n'ai pas d'exposé en bonne et due forme à faire, je n'ai pas de théorie de la littérature, si j'en avais une depuis le temps, je l'aurais probablement écrite. Je n'ai donc qu'une expérience, c'est-à-dire de livre en livre, quelque chose qui, là aussi, se fait, se défait, continue obsessionnellement, mais se déplace en même temps. C'est ainsi qu'on travaille ce qui devient éventuellement une œuvre, mais qui ne correspond pas à une préméditation, et sûrement pas à un plan. Bon. Ça correspond essentiellement à un désir. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vous dire comment tout cela s'est passé, sans pas trop trop long, c'est-à-dire retracer le parcours à ma façon, et vous savez bien que la mémoire déforme tout, ça n'est pas un défaut, c'est une vertu aussi, parce que ça prouve qu'elle est vivante, qu'elle est active, et qu'elle permet qu'en nous se rejouent les événements afin que le passé produise de l'avenir. Donc je vais essayer de retracer ce parcours, de vous dire un peu quelle a été mon expérience, et puis... pour me reposer un peu, je vous lirai trois ou quatre textes que j'ai photocopiés, que j'aime beaucoup, dans lesquels je me reconnais. Et puis après, j'espère que vous m'aiderez, parce que je ne tiendrai pas toute la séance en parlant tout seul. Voilà. Donc, nous parlerons ensemble. On parlait tout à l'heure de non-sacralisation de la littérature, à mon propos. Il n'empêche que j'ai lu, j'ai appris et j'ai écrit, depuis que je suis allé à l'école, passionnément. Donc ça ne suppose aucune tiédeur, ce qu'on vient de dire, qui n'est pas faux. Simplement, j'aimerais bien que le monde puisse être enchanté sans être aveugle, ou plutôt que les lecteurs ou les auteurs puissent être dans l'enchantement, c'est absolument nécessaire, nous avons tous besoin, on ne peut pas s'en passer, la littérature est là pour ça, pour produire cet enchantement et du sens. Et d'un autre côté, sans illusion qui provoquerait donc un aveuglement. C'est-à-dire que j'en reviens à cette notion de liberté dont je parlais tout à l'heure, et je dois dire que l'un des grands auteurs du passé auquel je me réfère souvent et que je lis avec énormément de bonheur, au moins une fois par an, c'est Montaigne, ce qui vous indiquera aussi un peu de mon exigence ou du nord de ma boussole. J'ai donc écrit et lu passionnément tout de suite, et j'étais dans une famille où il n'y avait pas de livres, où personne n'avait fait d'études, ce qui laisse justement très libre. Du même coup, on peut peut-être comprendre que tant de choses m'est intéressé. Cette diversité est un atout, ce goût de la variété donne beaucoup de plaisir. Je vois bien que l'écueil, cela pourrait être de passer pour je ne sais quel pic de la Mirandole ou touche à tout, je n'aime pas tellement l'éclectisme, ou candidat à je ne sais quel jeu radiophonique ou télévisé. Bon, le savoir, ça peut être ça aussi, évidemment, c'est par ça qui m'intéresse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie, pour des raisons qui me rendent obscures à jamais, comme pour chacun, j'ai eu envie d'imiter ce qui me donnait du plaisir, c'est-à-dire la lecture. Comme c'était la chose la plus immédiatement à ma portée, eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je crois aussi qu'il y a eu un tout petit événement qui a précipité les choses, c'est un déménagement. Mes parents ont déménagé, donc moi aussi, je devais avoir 8 ans, chose comme ça, donc je savais lire, là. Et le déménagement provoque évidemment une clôture, on sait qu'on ne reviendra pas dans tel ou tel lieu, et que ce lieu, immédiatement, s'inscrit comme un lieu de mémoire. Tout ça, je ne pouvais pas me le dire à ce moment-là, bien entendu. Mais je crois que c'est ça que j'ai vécu. Bon. Et ça a été une expérience tout à fait fondamentale. Et je le dis parce que je crois me souvenir, parce que vous voyez, on est obligé de prendre des précautions avec la mémoire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce flottement est intéressant aussi. Je crois me souvenir que j'ai ouvert un cahier après ce déménagement et que j'ai commencé à raconter des petites choses comme ça, vous voyez, qui concernaient le lieu à jamais fermé. Bon, que d'ailleurs je n'ai pas oublié. L'autre événement déterminant, c'est tout simplement le fait d'apprendre à les réécrire. Alors, on peut ne pas s'en souvenir, on peut considérer ça comme anodin, ou comme ce qui est dévolu à tout le monde. Moi, je ne l'ai pas vécu de cette façon. Ou plutôt, après coup, quand j'étais adolescent, quand j'ai découvert la poésie contemporaine, quand j'ai commencé à écrire dans ce genre-là, je me suis aperçu qu'il y avait thématiquement une sorte d'obsession qui concernait le passage à travers les signes. Je dis « à travers », c'est-à-dire que là aussi, je suis passé d'un monde à un autre. C'est, autrement dit, d'une expérience du monde qui est presque entièrement sensorielle, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas d'apprentissage, bien entendu, à un monde qui, là aussi, à jamais, passait par la représentation, par le truchement des signes. Je crois que ça a joué un rôle d'autant plus important que, comme je vous l'ai dit, je venais d'une famille où ça n'était pas habituel de faire des études, que j'avais une grand-mère, j'aimais beaucoup, maternelle, qui ne savait ni lire ni écrire, à qui j'ai dit bien un livre plus tard. Et donc, j'ai ressenti sans doute, comme certains d'entre vous peut-être, ou si on a une origine étrangère, c'est la même chose, si on change de culture, c'est une expérience semblable, l'expérience d'une coupure, voilà, de voilà, quelque chose qui, tout à coup, vient, vous voyez, barrer notre mémoire, et donc notre vie, une partie de notre vie, qui tout à coup est irrattrapable. De toute façon, c'est cette expérience-là que nous vivons tous les jours. Enfin, il faut bien qu'il y ait à certains moments des bornes, des repères, des fractures, aussi bien, qui nous font éprouver plus vivement, qui nous confirment que cela existe. De même que nous savons que nous sommes mortels, mais enfin, de temps en temps, ça nous est rappelé un peu plus vivement que d'habitude. Bon. Donc voilà, je crois, les deux événements qui m'ont poussé à écrire. Puis après, comme tout le monde, Sartre le dit très bien dans les mots, je ne suis pas sartrien du tout, mais il n'empêche qu'il y a des pages de Sartre que je trouve très justes. Il y a une page des mots dans laquelle il raconte comment il a commencé à écrire, c'est évidemment en recopiant ce qu'il lisait. en changeant un mot, deux ou trois, hein, il avait l'impression de s'approprier la page et qu'elle devenait la sienne. Bah, évidemment, c'est l'expérience qu'on fait tous quand on commence à écrire, pas forcément exactement celle-ci, mais on s'inspire d'eux, on écrit à la manière d'eux, pas forcément non plus dans le pastiche, mais bon, encore une fois, on essaie de reproduire pour soi ce qui nous a tellement enchanté quand on a découvert les livres. Alors, bon, passons là-dessus. Et puis, passons juste un petit élément comme ça sur lequel il n'y a pas à s'attendre, qui est plutôt drôle après coup. Il m'est arrivé d'écrire quand j'avais 14-15 ans une tragédie. Bon, en prose, n'exagérons rien. Mais enfin, tout de même, une tragédie, parce que c'était ce qu'on pouvait lire au lycée, bon, tout simplement. Voilà. Et puis, il faut bien aussi là qu'il y ait quelque chose d'autre dans quoi on se reconnaît et qui provoque ce qui va déterminer l'expérience qui nous appartiendra à jamais. Alors ça, ça a été la découverte de la poésie contemporaine. Voilà, c'est très simple. La poésie contemporaine a été pour moi une sorte d'éblouissement, vraiment de révélation. Parce que tout à coup, il y avait à la fois le chant, la beauté du langage, l'imaginaire et la concision. Et j'insiste sur ce dernier point, c'est parce que je lisais de la poésie du XXe siècle. J'aurais lu les épopées, je n'aurais pas été sensible à la concision. Là, je me suis dit, en très peu de mots, on peut condenser tellement de choses. Et ça, c'était extrêmement important. Bon. Et puis ça m'a amené au tout premier livre que j'ai publié, qui m'apparaissent comme curieux aujourd'hui, enfin surtout les deux premiers. J'ai dû rejouer, là, une expérience, celle que je vous racontais en peu de mots précédemment, c'est-à-dire cette espèce de découverte euphorique, jubilatoire et inquiète, tout à la fois, l'une touche pas l'autre, de ce que le langage permet et de ce qu'il est en nous, de la façon dont il nous traverse, nous investit, et de la façon dont nous avons à nous en servir, la façon dont nous sommes dedans, et donc, à ce moment-là, nous sommes isolés du monde, et en même temps de la façon dont le langage nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin que l'expérience immédiate. Voilà. Et nous sommes toujours pris en quelque sorte entre ces deux feux. Et dans ces deux premiers livres, comme j'osais jeter sur la page un peu tout ce qui me venait dans une sorte de concaténation verbale à laquelle le phénomène de la mémoire n'est pas étranger d'ailleurs, parce que la mémoire procède aussi ainsi, il y avait là quelque chose qui m'a été absolument nécessaire, mais qui était loin d'être suffisant. Je n'ai pas eu envie de continuer cela pendant trop longtemps, parce que j'en ai atteint les limites, et parce que cette ivresse du langage, considérée comme pour lui seul, ou presque, me semblait, au bout d'un moment, déboucher forcément sur une sorte d'enfermement, de solipsisme, ou de glossolalie, on peut employer tous ces mots-là. Et à ce moment-là, je me suis repenché alors sur des études au fond linguistiques. J'avais eu en classe préparatoire un professeur de philosophie qui avait le langage au programme qui m'avait beaucoup éclairé. C'est devenu un ami, c'est toujours mon ami le plus proche, bien qu'il soit un peu plus âgé que moi forcément. Et c'est quelqu'un qui, dans ce cours sur le langage, m'a fait découvrir Saussure. Ça m'a beaucoup intéressé. Mallarmé, je connaissais déjà au moins un peu. Je parle du Mallarmé, j'allais dire linguiste, enfin, du Mallarmé des divagations, etc. Bon, bref, tout cela m'a amené à m'intéresser à la linguistique et à la philosophie du langage. Ça a été le premier savoir, comme ça, un peu maîtrisé en tant que tel, qui m'a intéressé, mais il n'était pas très extérieur à la littérature. Il m'a permis, en tout cas, de prendre une certaine distance, voilà, vis-à-vis des moyens que vous pouvez employer, et peut-être de les maîtriser davantage. Ensuite, il se trouve que l'architecture m'a intéressé assez vite, mais à ma propre surprise. L'architecture, voici comment ça s'est passé. Je ne suis pas architecte, je n'ai pas fait le début du commencement de formation dans ce domaine. D'abord parce que c'est une forme. C'est aussi un habitat, ce sont les deux à la fois, c'est de l'esthétique et de la vie pratique. Donc sans doute qu'il y avait dans l'architecture deux aspects qui pouvaient réunir comme ça à mon insu des bouts de chaîne de mes préoccupations. Et c'est passé par Rome, Alors voici comment ça s'est passé. J'avais été très sensible quand j'étais étudiant à la poésie baroque du XVIe siècle, qui a fait partie vraiment de mon roman de formation ou mon roman d'apprentissage. Et j'avais lu beaucoup, beaucoup de la poésie du XVIe siècle. J'aimais donc le Maroc, sans bien savoir ce que c'était. C'était à travers la poésie française d'abord. Et tout cela m'amenait à lire un livre qui existe toujours, qui est d'ailleurs un très bon livre, de Jean Rousset, sur la littérature européenne à l'âge baroque. C'est un livre sous-titré « Circé, déesse des métamorphoses et le Pan », et c'est toujours édité chez José Corti. Il se trouve que dans l'exemplaire que j'ai lu autour de la 20e année, quelque chose comme ça, il y avait, je ne sais pas s'il y a encore, je n'ai pas vérifié, il y avait un petit cahier de photographie en noir et blanc à la fin, avec la place Navone, statue du Bernin, fontaine et façade. Bien. Ça m'a déterminé à aller à Rome et à vouloir y vivre. Ce que j'ai fait, j'ai aussi appris l'italien, et là je me suis intéressé de très près à Borromini, au Bernin, etc. C'est la première fois que j'ai eu envie d'écrire des vies dans un essai. Donc du même coup, l'essai contenait une petite part de narration. Sans que je me dise, je vais mettre tel pourcentage de narration dans l'essai, mais j'avais besoin, en m'informant, d'informer les autres aussi, et de dire un peu, par exemple, ce qu'était le personnage de Borromini. Ce qui m'a intéressé également, c'était la confrontation entre deux tempéraments, deux personnages, deux architectes rivaux, mais sans doute que leur existence conjointe a été nécessaire avec l'illusion du baroque romain. Je veux parler de Borromini et du Bernin, que j'ai déjà nommé. Tout ça m'amenait même à Cinecittà, parce qu'il me semblait que, puis j'en ai rien fait dans le livre, mais il me semblait que dans Cinecittà, les fameux studios du cinéma italien, il y avait une prolongation de l'esprit baroque, en particulier dans les fêtes, les jubilés, les mises en scène de l'époque baroque. C'est pas Fellini qui m'aurait contredit. Donc Rome a été la première découverte d'abord d'une autre culture, ça m'a fait aussi reculer dans le temps, et en même temps c'était un peu singulier puisque je ne suis pas allé à Rome pour l'Antiquité, ce qui jusqu'à une certaine période, en tout cas dans notre culture, était le chemin prévu, sinon obligatoire. Mais c'est à travers le baroque, et je dis parfois à travers le miroir déformant ou la loupe du baroque, que j'ai pu comprendre l'Antiquité, enfin la Rome antique, et que je m'y suis intéressé. Donc chacun ses voies, et peut-être aussi que c'était une voie moderne. Enfin, on appartient aussi à une époque, une génération. Enfin, je dis quelquefois qu'on est, on est singulier, mais jamais unique. Donc l'architecture a continué de m'intéresser, et beaucoup plus tard, quand j'ai écrit sur les jardins de Kyoto, il me semble que, bon, il ne s'agit pas d'architecture au sens propre, mais qu'il y a tout de même une architecture du paysage, qu'il y a un souci d'une forme et d'un art de vivre. C'est une cellule habitable aussi, le jardin avec son pavillon, même s'ils sont très différents les uns des autres. Donc il y a un intérêt là qui a continué. C'est-à-dire pour quelque chose qui n'est pas de l'ordre du naturel. Enfin, on voit bien que j'aime... non pas l'artifice au sens péjoratif du terme, mais enfin je revendiquerai volontiers ce terme, l'art, l'artifice, les constructions esthétiques, les formes sociales, en effet, tout ça me passionne. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que, par exemple, en écrivant le manteau de Fortuny, le livre auquel on faisait allusion tout à l'heure, ça a été une lecture de Proust, et là on reste dans la littérature. Ça a été une grande lecture, ça a été un des grands événements pour moi de ma vie de lecteur. Donc je pense qu'il y a une vie de lecteur qui n'est pas séparée de l'autre d'ailleurs. Quand j'ai lu Proust, je n'ai plus fait que ça pendant 3 mois, et c'est maintenant au soir parce que j'avais aménagé une période où je pouvais le faire. Et puis après, j'ai arrêté et je me demandais ce que j'allais faire ensuite. D'ailleurs, c'est une occupation à plein temps, de lire Proust, et un peu hypnotisante. Et j'étais dans l'inquiétude à la fin. Et je m'en suis sorti, au fond, en écrivant. Mais en écrivant, j'avais commencé un essai, quelque part, mais au fond, qui était d'ordre critique ou presque universitaire. Ça m'a ennuyé. Bon. Et puis plus tard, le nom de Fortuny revenant à la surface, parce que j'allais à Venise, ça a déclenché ce qui m'a mené à ce livre. Mais là, c'est un nom propre aussi. Et les noms propres ont joué un grand rôle pour moi. Dans, sans doute que c'est lié au savoir, parce que le savoir est plein de noms propres. À l'imaginaire, bien entendu, parce que les noms sont aussi des sonorités, et c'est le nom même de Fortuny qui me fait penser, dans lequel il y a la fortune dans tous les sens du terme, l'or, etc. Bon. Et donc j'ai écrit cet essai qui m'a amené à découvrir qui était Fortuny. Je ne savais pas avant de lire la recherche, et même pendant que je lisais la recherche, je n'étais pas spécialement attentif à ce nom. C'est donc un couturier, pour ceux qui ne le sauraient pas, couturier vénitien, fils de peintre, et j'ai été amené là à aller à Venise, ou pas pour les besoins de la documentation, mais j'aime bien que la vie soit comme l'écriture, mais il n'y a pas de différence pour moi, soit un peu aimantée, orientée, heureusement, grâce à des hasards propices, enfin bon, grâce à des situations favorables, enfin, c'est aussi une forme d'inspiration, l'inspiration ne doit pas gouverner seulement les livres. Et donc j'ai été amené à voir une dame qui avait des tissus de Fortuny. J'en ai vu beaucoup à ce moment-là. Je n'ai pas vu le musée à l'époque, c'était toujours fermé, comme beaucoup de musées italiens. J'ai vu longtemps après avoir écrit le livre. Et puis j'ai même terminé le livre dans une maison où il y avait des coussins, des bouts de tissus qui avaient été fabriqués par Fortuny, donc c'était beaucoup de chance. Et je me suis aperçu à ce moment-là que tout ça m'intéressait, que l'étoffe, que les étoffes, les tissus dont j'ai reparlé à propos de Rimbaud plus tard, étaient une composante comme ça de ma sensibilité et de mon imaginaire. Et voilà, bon, et peut-être qu'il y a une forme aussi de fétichisme là que j'ai découverte ou que j'ai reconnu grâce à cet essai. Autrement dit, je n'écrirais pas d'essai littéraire s'il n'y avait pas une très forte implication personnelle, s'il n'y avait pas la recherche de quelque chose que j'ignore ou que je devine, enfin les deux à la fois, s'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre au moins d'une petite révélation. C'est ce qui est arrivé pour cet essai. Dans d'autres, où je me permets de dire « je » quelquefois, c'est encore plus net. Donc l'implication d'une subjectivité, je dois préciser quelque chose. Non pas pour l'étalage du « moi », je n'écrirai jamais de mémoire, même de souvenir encore moins, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non pas pour un étalage du « moi », je trouve que la période que nous vivons, enfin l'âge dans lequel nous sommes, ou la société dans laquelle on est aujourd'hui, précisément, admet trop vite et trop facilement ces exhibitions. Mais il me semble aussi que nous avons à nous reconnaître dans certains phénomènes, avec, comme je disais tout à l'heure, la part de l'imaginaire, à reconnaître nos projections fantasmatiques pour mieux appréhender le monde. Les reconnaître, ce n'est pas seulement s'en débarrasser, c'est être plus lucide. Ce travail d'élucidation appartient à la littérature, enfin, en tout cas, à ce que j'aime, moi, dans la littérature. Je parle là plutôt comme auteur que comme lecteur. J'aime des choses aussi qui n'ont rien à voir avec ça quand je lis. Donc, cette part d'élucidation, j'y tiens beaucoup, c'est sans doute pourquoi j'écris des essais. Et on reviendra peut-être sur le terme d'essai tout à l'heure, parce que c'est un mot fourre-tout, mais enfin, après tout, le mot roman aussi. Enfin, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on en reparle. Alors, disons ça de côté. J'ai été aussi, dans l'ordre du savoir ou des alentours de la littérature, intéressé à un moment, mais c'est fini maintenant, intéressé, j'ai oublié de le dire, j'aurais dû le dire tout à l'heure, par les langues étrangères et surtout par les systèmes d'écriture différents d'une autre. Alors c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux hiéroglyphes quand j'ai écrit le dernier des Égyptiens, au moins pour comprendre un tout petit peu ce qu'avait été le parcours de Champollion lui-même, ce qu'avait été l'importance de sa découverte, et puis aussi à m'intéresser aux écritures orientales, sans rien en savoir ou presque rien. J'ai fait un peu de chinois, et comme ici j'ai une observatrice attentive au premier rang, je ne me permettrai pas de dire ce que je ne sais pas, parce que ce serait trop long. Bon, mais elle sait que j'ignore le chinois. Et puis, j'ai fait un petit peu de japonais pour les besoins de la cause, ne serait-ce que pour me débrouiller quotidiennement dans le pays. Enfin, ça ne va guère plus loin. Tout de même, cela m'a donné le sens de l'arbitraire de notre situation, de la relativité des écritures. Ça m'a permis de comprendre mieux ce qu'est une écriture aussi. Et donc, tout ça a joué un grand rôle. Mais aussi les spectacles plus récemment, comme le cirque, le cinéma muet. Mais tout cela, ce sont des, au fond, ce sont des phénomènes de mémoire. J'en dirai un mot tout à l'heure, j'espère que j'aurai l'occasion. Et enfin, donc, plus récemment encore, ce qu'on pourrait appeler de l'anthropologie. Il y a donc un livre qui s'appelle Le goût de l'homme, qui est le dernier publié, plus pour très longtemps, et qui rassemble trois essais. Dumézil, Clastres et Griot, l'en sont les héros, j'oserais dire les héros, comme pour une littérature romanesque. Là, je voudrais dire avec force que pour moi, il y a autant d'invention et même d'imagination dans l'essai, dans la lecture tout simplement, que dans le roman. On a trop tendance aujourd'hui à croire que ce genre a tout avalé et qu'ailleurs, qu'il n'y aurait plus que des tentatives marginales ou subalternes. Je ne crois pas du tout. Et à ce propos, je suis toujours étonné, même si c'est juste, là je l'avais entendu dans la présentation, qu'on me dise que chez moi, je ne sais quel mélange des genres, je ne mélange pas d'abord. J'utilise tous les moyens de la littérature, sauf un jusqu'à maintenant, le dialogue. C'est vrai que je n'ai pas écrit de dialogue, jamais. Mais autrement, je crois que j'ai utilisé à peu près tous les moyens. Puisqu'ils sont à notre disposition, ne nous en privons pas. Voilà. Et c'est tout simplement qu'on a oublié que la littérature a vécu ainsi, et continue d'ailleurs, a vécu ainsi pendant des siècles, n'est-ce pas? Beaucoup de poètes ont écrit des essais, y compris des essais savants, Pétrarque, Dante, dans un autre domaine, le domaine anglais, Coleridge, un penseur, enfin, vous voyez. Les poètes qui m'intéressent le plus sont généralement ceux qui ont une forte pensée, Leopardi, Baudelaire, etc. Bon, dans le domaine anglais, puisque j'y étais, songez un instant, un écrivain comme Thomas de Quincey, qui m'étant Borges, n'est pas quelqu'un qui mélange, c'est simplement quelqu'un qui a une vision large de la littérature, c'est tout. Voilà. Je crois que c'est depuis longtemps ainsi et que cela continue, malgré la vision parfois réductrice qu'on en a à travers la presse, enfin, la vulgarisation de la littérature, au fond. Voilà. J'espère qu'à l'université, c'est tout de même pas le cas. En termes de mélange, je ne voudrais pas d'ailleurs opposer l'essai et le roman. Je pensais cet après-midi justement à ce que je me rappelais le fait que Don Quichotte, comme chacun le sait, est écrit grâce à la lecture du roman de chevalerie par Cervantes. Enfin, tout le monde sait cela. Et ça ne passe pas pour une œuvre livresque pour autant. Bon, meilleur exemple, dans Moby Dick de Melville, il y a une large part d'essai. C'est un tiers ou peut-être la moitié du livre. C'est un très grand essai sur les baleines, hein, et une grande lecture de l'Ancien Testament. Bon, c'est tout ça à la fois, Moby Dick. Sans doute, il faut bien ajouter aussi que c'est une des raisons de l'insuccès total du livre. D'autant que Melville ayant commencé par des romans d'aventure tahitiens, les lecteurs ont été un peu troublés. Mais il y a aussi cette raison que Moby Dick est un grand livre qui charrie tout à la fois et des registres extrêmement différents, qui commence d'ailleurs, si je me souviens bien, par quelques dizaines de citations, non? Enfin, les citations en exergue sont extrêmement nombreuses. Bon, voilà. Je parlais de Montaigne tout à l'heure. Vous voyez qu'on peut faire une œuvre très originale et très personnelle. En étant lecteur et en citant. Et à ce propos, je crois que, au fond, les livres se distinguent, ils sont tous faits un peu de la même façon, et tout écrivain a beaucoup lu, évidemment, et puis là, et tous ont appris des choses. Mais on le dit plus ou moins. Cela apparaît plus ou moins dans le résultat, dans l'œuvre elle-même. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas que ça apparaisse, même ça me fait plutôt plaisir. J'aime bien payer mes dettes. Car ce n'est pas seulement une question littéraire, c'est sans doute une question éthique aussi. Ça ne me gêne pas de payer mes dettes. Il y a une grande jouissance à reconnaître cette dette et à citer, à condition qu'on ne fasse pas, et là c'est une question de dosage, de subtilité, de talent, tout ça existe évidemment. Et seul le lecteur en est juge, à condition donc qu'on ne fasse pas le singe savant. Bon. Je pourrais aussi ajouter que. C'est peut-être ça qui ne me gêne pas dans la citation. J'ai vraiment le culte de l'invention, mais pas du tout le fétichisme de la nouveauté ou de l'originalité à tout prix. Et il me semble que c'est un préjugé moderne, mais tout à fait dommageable. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait le choix, quand j'entends certains discours, je pense à ça, comme si on avait le choix qu'entre la continuation académique ou réactionnaire, n'est-ce pas, ou l'innovation effrénée. Voilà. Eh bien, non. Enfin, j'aimerais, d'abord, je crois que je dis les choses autrement, et j'aimerais le montrer en écrivain. Voilà. Donc, l'invention, c'est vu comme le monde, si j'ose dire, mais ça n'est pas tout, c'est pas tout à fait le culte de la nouveauté pour se singulariser à tout prix. Parce que je crois aussi que l'écrivain a le devoir d'être original, d'inventer quelque chose, bien entendu, il n'est pas là pour répéter ce qui a déjà été fait, enfin, comme tout artiste. Mais il y a deux façons d'y parvenir. La première, c'est de le décréter et de le montrer très vite. C'est comme ça qu'on voit des artistes dans le domaine plastique, surtout qui, au fond, inventent une marque de fabrique ou un truc répété à l'infini. Bon, ça, c'est une originalité facile, mais c'en est à peine une. Et puis, il y a celle qui naît de la véritable invention, c'est plus patiente, peut-être moins spectaculaire, mais plus profonde. Voilà. Je crois que c'est ce que je viens de dire là, cette forte banalité, si j'ose dire. Il n'est pas mauvais de la rappeler de temps en temps. Bon, mais je ne crois pas qu'elle soit tout à fait oubliée non plus. Voilà. Sans doute, c'est ce que j'aurais dû encore dire, mais le temps tourne. Ce que je vais faire, parce que je voudrais qu'on dialogue aussi vite que possible, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous faire profiter des quelques pages que j'ai apportées en les photocopiant pour que ce soit moins lourd. La première de ces pages, donc la première de ces citations, il suffit que je ne l'ai pas oublié, non, la voici. C'est une citation brève, et elle est d'un romancier, précisément, car j'aime beaucoup le roman. Je lis chaque année un roman de Conrad, par exemple. J'ai lu et relu Balzac avec passion, j'ai même préfacé un roman de Balzac. Et cette fois, donc, il s'agit de Tanizaki. C'est un romancier que j'aime particulièrement, à la fois du point de vue strictement littéraire et du point de vue de la sensibilité. Voilà. Y compris de la sensibilité dans l'ordre de l'érotisme. Et donc Tanizaki est pour moi un romancier comme ça, très, très proche, beaucoup, j'aime sa faculté d'inventer des histoires aussi, de faire vivre des personnages, etc. Et Tanizaki donc, a écrit également beaucoup d'essais. Hélas, je n'ai pas pu les lire pour la plupart, tout simplement parce qu'ils ne sont pas traduits. Et à ce propos, vous allez voir comment nous sommes aussi un peu victimes d'un certain... une certaine habitude de lecture. Tanizaki a écrit beaucoup, beaucoup d'essais. Ses œuvres complètes au Japon sont monumentales. Et quand enfin, dans la Pléiade, enfin, on a annoncé qu'on mettait Tanizaki en Pléiade, je me suis réjoui en disant je vais enfin pouvoir lire les essais de Tanizaki que je ne connais pas. Et quand je l'ai dit chez Gallimard, on m'a dit ah oui, mais on ne fait que les romans. Bon, et voilà, raté. Alors, il n'y a à peu près qu'un essai de Tanizaki qu'on connaisse bien, c'est L'éloge de l'ombre, qui est un livre que j'ai lu et relu, que j'ai beaucoup aimé, et qui, je dois dire, m'a permis de comprendre beaucoup de choses au Japon. Voilà, donc si vous ne l'avez pas lu, bien, il y a encore temps, c'est un livre magnifique, pas forcément bien traduit, mais enfin bon, de toute façon, et qui fait une centaine de pages, pas plus, ça va être mieux voir le cinéma japonais, par exemple. Tanizaki écrit des romans, des récits brefs aussi, il y en a beaucoup, ça s'est traduit en général, ça a été traduit assez tardivement, enfin traduit, et il y en a un qui s'appelle Shunkin, l'esquisse d'un portrait. Et dans ce récit bref, qui est très bon, mais je ne veux pas m'attarder sur le récit, il se trouve que Tanizaki a écrit une postface, et cette postface, qui fait trois pages, est dans la Pléiade. Et dans cette préface, j'ai pu lire quelque chose qui me ravit, me réjouit, me concerne de près. Voilà, je vais me revendiquer d'un genre littéraire qui est le tsuhitsu. Alors, voici l'explication par Tanizaki lui-même. Tanizaki dit au début, mais je n'ai pas photocopié cette page, qu'il relit avec peine ses livres de jeunesse, comme tout le monde, et pour une raison précise, presque technique. Il trouve que dans ses premiers romans, il y a une alternance trop mécanique, trop monotone, de la narration et des dialogues. Et voilà qu'il s'en prend au dialogue, avec toutes ses formules, et d'ici, il ajoute de tel, enfin, etc. Mais bon, il commence comme ça, continue, il dit, tout ça, c'est rasoir, ce que je pense aussi, c'est souvent inutile, etc. Et il dit qu'il aurait pu s'en passer. Et dit, en procédant de la sorte, on est tenté d'aligner le rythme des dialogues sur celui de la narration, et tout naturellement, les premiers, c'est-à-dire les dialogues, s'étiolent et finissent par se fondre entièrement dans le style narratif. Et il ajoute ceci, et c'est le passage qui m'intéresse au plus haut degré. Or, il y a toujours un peu d'ironie chez Tanizaki, donc j'aime beaucoup ça. Or, pour une raison ou une autre, il semble que nous, les écrivains japonais de fiction, à mesure que nous prenions de l'âge, nous répugnions toujours davantage à rédiger des dialogues. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas lu assez d'auteurs japonais vieillissant pour le savoir, mais enfin faisons confiance à Tanizaki. Il semble aussi que, délaissant le style du roman, nous options pour celui du monogatari, terme aujourd'hui assez connu en Occident, ne serait-ce qu'à travers le Genji Monogatari, le fameux dit du Genji. Bon, ce sont les œuvres classiques japonaises, alors quelle, je suis obligé de mettre quand même une note en bas de page, quelle différence entre le roman et le monogatari? D'abord le roman est postérieur, le monogatari est antérieur, et c'est davantage, disons, une chronique, un récit, comme on en faisait chez nous dans l'époque médiévale, par exemple, ou enfin, peut-être que les comparaisons sont un peu bancales, mais enfin, c'est pour essayer d'éclairer au moins un peu nos lanternes. Donc le monogatari est plutôt une espèce de longue chronique. Voilà. Alors, il semble que délaissant le style du roman, nous options pour celui du monogatari, et que, cherchant à conférer encore plus de concision au narratif, nous en arrivions même à renâcler devant l'effort de décrire le lieu de l'action, pour finalement délaisser le style du monogatari au profit d'une écriture d'une sécheresse encore plus élégante, celle du tsuhitsu, de l'essai au fil du pinceau. Ben voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir dire que j'ai écrit des essais au fil du pinceau. Mais s'il faut que j'explique à chaque fois, c'est un peu complexe. Dans la conversation, c'est pas très commode. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup revendiquer cela. Alors, ce terme s'écrit Z-U-I-H-I-T-S-U, référence dans la Pléiade. Mais comme j'ai fait une photocopie agrandie, j'ai pas le numéro de page. Volume 1 et vers la fin, mais c'est en tout cas la postface à Shunkin, esquisse d'un portrait, si toutefois vous voulez retrouver le texte original. Bien, donc, ce qui me réjouit là-dedans, c'est que d'abord, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, pour moi tout seul, comme ça, ah ben c'est très bien, j'ai évité le roman, le monogatari, j'ai tout de suite commencé par le tsuhitsu, voilà. Et l'essai au fil du pinceau, ça existe évidemment chez nous aussi. C'est-à-dire que c'est cet essai libre qui ne sait pas tout à fait où il va dès le début, mais qui sait confusément qu'il va quelque part, qui invente son chemin au fur et à mesure, qui est moins préoccupé de la thèse ou de la démonstration que du chemin à parcourir, qui accepte justement les accidents de parcours et les bifurcations éventuelles. Je suis en train de vous donner plein de mauvais conseils là. Et donc, c'est un, on pourrait dire, essai libre, comme il y a dans le petit nage, parce que les figures imposées et les figures libres, eh bien le tsuhitsu se rangerait du côté des figures libres. Voilà, je crois qu'on pourrait dire cela. Alors, on pourrait s'amuser, je ne l'ai pas fait, mais vous le ferez si vous voulez, à trouver des livres occidentaux. Et la littérature française, entre autres, on n'en manque pas, qui pourrait être rangée sous cette étiquette de tsuhitsu. Voilà. Mais il y en a de nombreux. C'était donc le premier texte que j'ai apporté. Le deuxième est extrait d'un livre d'un auteur aussi que j'aime énormément, sinon je pourrais le dire à chaque fois, bien entendu, mais pour des raisons à chaque fois différentes aussi. C'est une page d'Yvonne Verdier. Alors, Yvonne Verdier, on n'est pas obligé de le connaître. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande, grande admiration. Elle est morte trop jeune d'un accident de voiture, si je suis bien informé. C'est quelqu'un que je n'ai pas connu et que j'ai rencontré grâce à un livre. Et ce livre s'appelle « Façon de dire, façon de faire ». C'est dans la Bibliothèque des histoires chez Gallimard ou Bibliothèque des idées, je ne sais plus. C'est la même présentation et le livre pourrait être dans les deux. C'est une enquête sur un village en Bourgogne, donc une enquête ethnographique, consacrée à un village en Bourgogne qui s'appelle Minot. Et le sous-titre du livre, c'est, si je me souviens bien, « La laveuse, la couturière ». Il y a trois personnages. Trois personnages féminins. Qui sont aussi la coucheuse, je crois. Non. Qui sont aussi des passeuses, des gens qui, enfin des femmes en particulier, là, qui transmettent une mémoire à travers des actes, des pratiques, des rites, des formules. Et le charme que j'ai trouvé à ce livre, outre de nous restituer comme ça tout un univers qui, au fond, est désormais fini. Et quand on aime la littérature, quand on aime lire, on aime ça, évidemment. C'est que j'avais trouvé dans ce livre, quand je l'ai lu, une épaisseur romanesque que je trouve rarement dans les romans du jour. Mais il faut dire que je les lis si peu que je serais injuste et de mauvaise foi si je continuais. Donc, restons-en à Yvonne Verdier. Après ce livre, ce seul livre, Yvonne Verdier est morte, donc. Et posthumement, on a publié un autre livre d'elle qui réunissait plusieurs écrits ou articles. Et le titre, c'est « Coutume et destin », qui comprend alors une partie principale, la première, qui est la plus longue, qui est une lecture de Thomas Hardy. Et ce qui m'intéresse aussi, là, c'est qu'on voit une ethnographe, c'est pour ça que je vous en parle aussi ce soir, une ethnographe qui est en dehors de la littérature en principe, qui s'est toujours intéressé à la littérature, évidemment, mais qui finit par écrire sur la littérature, ce qui n'est pas son objet premier. Ce qui prouve que les circulations, si vous voulez, entre la littérature et le reste, non seulement ne cessent de se produire, et très bien, et sans problème, même si on ne les aperçoit pas toujours, mais que l'inverse se produit également. D'ailleurs, on a été, je pense, assez nombreux dans ma génération à lire les livres de la collection Terre humaine, les livres d'ethnographie, avec un plaisir qui était romanesque, avec le plaisir du romanesque aussi bien. À un moment où le nouveau roman, faut bien dire, nous en privait. Enfin, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Alors, je suis. Le nouveau roman, pour moi, ne compte pas. C'est un peu péremptoire, mais ça correspond à la réalité. Telle qu'elle ne m'a pas troublé non plus. Bien. Alors, il se trouve que Yvonne Verdier. Dans son essai, donc, dans son recueil d'essais, Coutume et destin, parle de Thomas Hardy longuement, et puis en annexe, on a très bien fait, on a réuni des textes parus dans les revues, vous voyez, des articles qu'on n'aurait pas autrement. On sait très bien que ça existe dans ce livre. Alors, il y a un essai sur le chaperon rouge qui est remarquable, il y a un essai sur la mythologie de la forêt aussi. C'est comme ça aussi que j'ai découvert Pierre Clastre, que j'ai eu envie de lire, c'était l'un de ses amis. Et voici le passage que je voulais vous lire. J'aime beaucoup le conte, la fable, ce sont des formes de narration d'ailleurs, et intermédiaires également entre le récit et la poésie. Donc je suis au fond assez fidèle à cette forme d'esprit, qui réunit également, c'est une autre crête comme ça, notre chemin de crête, qui réunit également ce qui est populaire et ce qui est savant. Ce qui est populaire m'inspire aussi assez souvent, mais ça se voit moins ou on le voit moins. Alors voici ce que dit Yvonne Verdier. Ça se termine par quelque chose sur la poésie, c'est pour ça que je l'ai dit. Si les coutumes enchaînent, elles s'enchaînent aussi les unes aux autres, formant une suite de tableaux non pas simplement successifs, mais dont les éléments sont constamment repris et recomposés d'un rite à l'autre, s'articulant morceau par morceau comme dans une mosaïque, d'où ces glissements de motifs d'une date à l'autre qui frappent à la lecture des recueils des folkloristes. Je se déplace, n'est-ce pas, mais on pourrait en dire autant de la mythologie jusque dans le roman moderne. par exemple. C'est le même processus, évidemment. Et je suis très heureux là, de souligner cette complète ressemblance entre un processus qui est celui d'une transmission populaire et celui d'une transmission savante, par exemple, à travers la mythologie. Se précisent en même temps deux propriétés du rite. D'une part, sa formidable vertu de concentration. Voilà. Concentration. D'autre part, son goût pour le détail. Et de fait, si on omet un détail ou un autre, le rite est bouleversé. Ce n'est plus le rite. Et c'est le détail qui va lui permettre d'en venir à la poésie. Ce sont en effet d'infimes détails qui composent son matériau pour former les images et tisser les liens, établir les correspondances, et c'est par les détails qu'il signifie, obligeant celui qui veut effectivement entendre ce qu'il dit et voir ce qu'il est, à n'en négliger aucun, à prendre en compte le moindre geste, si furtif soit-il, la moindre parole, le moindre mouvement. C'est le détail arraché de son lieu et de son contexte ordinaire qui compose l'étrange tissu composite du rite, on pourrait dire autant du poème. Et les fleurs quittent le sol, ce passage est très beau. Et les fleurs quittent le sol pour monter à l'assaut des arbres. L'arbre détaché de la forêt est posé dans le pré, croirait une image de rêve, ou une illustration médiévale, une enluminure. Et les graines de chanvre sont semées dans le bois, et les feux brûlent à portée du ciel sur les hauteurs, là où ils ne sauraient être en temps ordinaire. D'où son caractère, à première vue, absurde et forcené. Comme le cheveu ou la rognure d'ongle en magie, le rite utilise le pouvoir du fragment. Et comme j'écris des textes brefs en général, vous voyez que ce ne sont pas des fragments, mais je suis sensible à cette poétique qui s'esquisse et qui est conclue ainsi. Ainsi sont fixés à la force même des choses les différents aspects de l'existence sociale, mais aussi apparaît son procédé poétique, en ce que le rite agit comme le poète qui arrache le mot à sa phrase pour forger ses images. Tout à fait ce que je trouve d'abord splendide. Qui, vous voyez, n'est pas dans un livre de théorie littéraire, qui n'est même pas dans un art poétique, et qui pourtant en relève. Ce qui prouve aussi qu'on peut trouver, vous voyez, tout partout. Dès l'instant qu'on est dans une certaine qualité de pensée, d'écriture, eh bien, il n'y a pas tellement de différence à faire, de catalogue à établir. Voilà, c'est là que je voulais en venir aussi. Ce passage d'Yvonne Verdier, ce qui vient d'être dit là, va me permettre de passer. Je regarde, ça va ?
Oui, très bien.
Va me permettre de passer à quelque chose qui m'est arrivé récemment. Tout récemment, et puisque même on va rejoindre aujourd'hui.
Coutume et destin, c'est ça ?
Coutume et destin.
Destin.
Destin. C'est chez Gallimard, vous savez, le bibliothèque, ou des idées ou des histoires, je ne sais pas. Voilà. J'étais à Grenoble, quelques-uns le savent ici, il y a une dizaine de jours, ou 15 jours, je ne sais plus, non, 10 jours, voilà, ouais, pas longtemps en tout cas, pour un colloque auquel j'avais été convié. Et j'ai rencontré parmi les gens qui étaient là une jeune femme qui s'appelle Fabienne Dumonté, que je ne connaissais pas, avec qui j'ai eu une conversation. Et bon, à partir de mes livres, entre autres, et elle me disait que. Il y avait quelque chose qui l'intéressait dans mes livres à partir justement du XVIe siècle, et puis de Montaigne, enfin, etc. Bon, c'est plutôt plaisir, mais ce qui me faisait plaisir surtout, c'était qu'on ne me dit pas souvent ça. C'est un point de vue qui tout à coup était un peu inédit. Et puis, en parlant, elle m'a donné des conseils de lecture. Et elle a fort bien fait. C'est ainsi que les livres n'interviennent, n'est-ce pas ? Alors, elle m'a parlé de quelqu'un que vous connaissez peut-être tous, je n'en sais rien. Enfin, tous, ça m'étonnerait quand même, qui s'appelle Marie Carruthers, qui est une Américaine. Elle est à l'Université de New York, je crois même qu'elle est doyenne. Et Marie Carruthers, donc, a écrit un livre chez Gallimard qui s'appelle Machina Memorialis, en français, ou en soit en français ou en latin, comme on veut, mais dont le titre anglais est The Craft of Thought. Pardonnez mon très mauvais anglais. The Thought, c'était le thought de la pensée. Ce Machina Memorialis, elle m'en a dit en quelques mots assez pour que j'ai eu envie de le lire tout de suite, et que, dès que je suis rentré, j'ai foncé chez Gallimard pour acheter ce Machina Memorialis. Je l'ai ouvert à une page que je vous lirai tout à l'heure, mais j'ai appris en même temps que Marie Carruthers, le même auteur, avait écrit un livre, avant d'ailleurs, mais les deux ont été traduits en même temps en France, un livre intitulé « Le livre de la mémoire ». Celui-ci a été traduit et publié par les éditions Macula. Et je l'ai acheté aujourd'hui, le livre de la mémoire. Donc je ne l'ai pas lu, tout ça concerne le Moyen-Âge. C'est-à-dire ce qu'on a appelé parfois les arts de mémoire. Il y a un livre plus célèbre sur la question, c'est celui de Francis Yates, en effet. Et Marie Carruthers, c'est critique vis-à-vis de Francis Yates, et je trouve de belle façon, de façon stimulante, enfin vraiment très, très bien, c'est pas de la polémique. Et je ne sais pourquoi, peut-être parce que c'est d'aujourd'hui, j'ai trouvé le besoin de vous photocopier la quatrième de couverture, donc la présentation du livre de la mémoire, parce que ça me permettra de dire peut-être un peu mieux ce que je crois faire. Pour Marie Carruthers, qui traite de la transmission du savoir au Moyen-Âge, le point de départ n'est ni le livre ni l'image. Là, j'ai été intrigué, de toute façon évidemment très, très intéressante pour moi, puisque j'ai le sentiment aussi que le livre et l'image n'est fait au cœur de mes activités, enfin, sans reniement aucun, sans réserve même. Et d'un autre côté, il me semble aussi toujours que c'est quelque chose d'autre que j'ai bien du mal à définir et à nommer. Et cette page va peut-être m'y aider. Donc le point de départ n'est ni le livre ni l'image, mais en amont, la mémoire, en tant que lieu originel où s'accumule l'archive et où, par divers protocoles précisément réglés, s'invente les pensées nouvelles grâce à la mémoire. Il me semble que c'est ce que j'essaie de faire. Tout à coup, j'ai reconnu quelque chose. Il faut vous dire aussi que j'étais peu versé dans la philosophie en particulier telle qu'on nous l'a enseigné, même si je vous ai dit tout à l'heure que un professeur de philosophie est devenu l'un de mes meilleurs amis, peu versé dans la philosophie allemande telle qu'on nous l'enseignait, Kant, Hegel, enfin, le passage obligatoire et forcé par le concept. Et j'ai mis du temps à cause de ça, peut-être, à m'apercevoir que la pensée, elle, m'intéressait vraiment, qu'il y avait d'autres formes de pensée, et en particulier une pensée poétique, par exemple. Alors, la page continue ainsi. Il s'agit de combiner d'innombrables textes, sacrés ou profanes, amassés dans autant de trésors, dans autant de magasins mémoriels qu'il y a d'auteurs au travail. La mémoire est le réservoir où puise la pensée en gestation afin d'assurer la composition. L'écrit ne remplace pas la mémoire, il la sert. Il faut vous dire que ces phrases-là me font grand plaisir parce que moi je n'écris presque jamais pour travailler. Je n'écris qu'au moment de travailler. Je ne prends pas de notes, enfin quasiment pas, et je travaille mentalement. Donc le processus qui est mis en avant ici m'est très familier d'une certaine façon. Voilà. Je parlais de pensée poétique tout à l'heure, je crois que, en effet, l'habitude de la poésie favorise ce travail mental lié à une mémoire, et une mémoire qui donc est d'autant plus active qu'elle ne se sert pas de l'écrit. Voilà. L'écrit n'est que pour laisser une trace, et éventuellement travailler au sens artisanal du terme, naturellement. Alors l'écrit ne remplace pas la mémoire, il la sert. Ni substitut, ni fin en soi. Il est un reflet et un relais. Il se conforme au dispositif mis en place avant toute inscription matérielle. En remontant d'un cran dans la généalogie de la pensée, Marie Carruthers ramène le livre, l'image, au statut subalterne de support. Cette expression me réjouit un peu moins parce que ça pourrait passer pour péjoratif, et ça l'est un peu au fond. Et donc j'aimerais bien, pour mon compte en tout cas, qu'on puisse en parler à la fois comme d'un statut subalterne et comme d'un trésor, puisque le mot était prononcé plus haut. Voilà. Les deux me semblent nécessaires. Dans l'immense tissu conjonctif de la mémoire médiévale, j'aime bien ce tissu conjonctif, circule et part des textes d'Aristote à Quintilien, d'Augustin à Thomas d'Aquin, etc., Les auteurs les confrontent, les rapiècent, avant de les coucher sur le vélin des manuscrits, selon des procédures parfois étrangement proches de nos manipulations informatiques. Or, voici que le livre, à son tour, réactive l'appareil mnémonique, pointe dans la marge l'argument décisif, notae tituli, accole texte et glose, gordante, suscite de nouveaux montages spéculatifs par l'efficience de la mise en page. Et cela se termine ainsi. Image intempestive pour une époque, une autre, où la tyrannie de l'instant, la fragmentation de la durée, le harcèlement de la pseudo-nouveauté tendent à réduire l'efficacité heuristique de la réminiscence. Voilà. C'est donc là aussi un point de vue sur nous-mêmes que je ne suis pas loin de partager. Bien, j'avais trouvé précédemment, je terminerai par là ces lectures, j'avais terminé précédemment dans le livre de Marie Caruthers, que je n'ai d'ailleurs pas fini, que je suis en train de lire, celui qui s'appelle Machina Memorialis dans l'édition française, j'avais trouvé un passage qui commence par une citation de Boès, le livre fameux sur la consolation, et un commentaire dans lequel je retrouve tout à fait ma façon de travailler, qui n'a rien d'unique, encore une fois, et donc vous y retrouverez sans doute un peu aussi. C'est un petit passage extrait du chapitre qui s'appelle « Le mystère de la chambre à coucher », c'est pour ça que je suis allé vers ce chapitre tout de suite, bien entendu. Et le passage est titré « La vision inventive, Boès et sa dame philosophie ». Bon, j'essaie d'aller aussi vite que possible sans être hâtif, et j'en viens donc tout de suite à la citation de Boès, traduite en français. Tandis que je méditais silencieusement en moi-même et que je confiais au bon soin de mon stylet mes plaintives doléances, mélancolie liée à l'écriture, n'est-ce pas, je vis apparaître au-dessus de ma tête une femme. Quand elle vit à mon chevet les muses de la poésie, elle va être jalouse la dame, je vous préviens, quand elle vit à mon chevet les muses de la poésie suggérer des mots à mes pleurs, elle perdit quelques instants son calme, et ses yeux lancèrent des éclairs menaçants. Une vraie mégère, la philosophie. Absolument. Qui, demanda-t-elle, a autorisé ces petites putes de scène à approcher ce malade? Bon. Le langage est assez cru, mais c'est ainsi dans le texte latin. Voilà. Alors, voici maintenant le commentaire de Marie Caruthers. Boès, apprenons-nous, est dans son lit. J'écris beaucoup couché ici. Lorsque la vision imago de dame philosophie lui apparaît. Il n'y a que deux façons d'écrire. On est à une table pour écrire au sens physique du terme, au sens pratique du terme. Mais autrement, vous travaillez en marchant ou travaillez couché. Ce sont les deux bonnes positions. Alors l'apparition est d'abord minutieusement décrite, puis dame philosophie de façon très théâtrale, invective les petites putes de scène, qui se donnent en spectacle, on pourrait traduire aussi. Et leur ordonne de quitter le chevet de ce malade, plaintif et prostrat. Et voici le passage qui m'intéresse le plus. J'aimerais attirer l'attention, c'est Marie Caruthers qui parle, sur certaines composantes de ce récit qui peuvent paraître dénuées d'importance tant elles sont banales. Remarquons d'abord que Boès s'adonne à la composition silencieuse, c'est-à-dire à la méditation et au travail de la mémoire. Le poème sur lequel il travaille n'a pas encore atteint le stade où il est tout entier confié au stylet. C'est-à-dire que c'est cette période, n'est-ce pas, où les choses s'élaborent en nous, mais ne sont pas encore prêtes à se rejeter sur la page, sur le parchemin à l'époque. Il en est au stade de l'invention, pour moi c'est la période la plus voluptueuse du travail littéraire, de la mise en forme, qui débouchera sur la res, res, c'est le mot latin, la chose, ainsi nommée parce qu'elle se distingue du dictamen, étape au cours de laquelle la res se vêt, s'habille, de ses mots définitifs et du liber scriptus, etc. Je saute un passage. Si Boès est couché dans sa chambre, comme son récit nous le laisse entendre, ce n'est pas pour dormir, quelquefois, mais pour composer des poèmes. Ça n'empêche pas parfois de s'endormir quand même. Il est étendu parce que cette attitude physique était réputée induire la concentration mentale nécessaire au travail de la mémoire, à la composition méditative. Mais elle n'est pas la seule posture possible. La méditation peut aussi se pratiquer assis, debout près d'un lutrin, la tête penchée dans la main, figure de la mélancolie, comme on le sait, ou droite ou immobile, les yeux ouverts ou fermés, avec ou sans un livre. Dans la rhétorique classique comme dans la rhétorique monastique, se retirer dans sa chambre est l'indice d'une disposition d'esprit particulière, le signe que l'individu s'apprête à rejoindre le lieu du silence méditatif réputé essentiel à l'invention. Là, il y a un ami qui vient le voir à ce moment-là et qui s'aperçoit grâce à ses yeux ouverts et fixes que Boès est en train de méditer, et l'ami discrètement s'efface. Et Marie-Claire Uther s'ajoute à ce moment-là qu'elle aimerait bien avoir des proches qui soient aussi délicats. Voilà. Bien, donc voilà l'essentiel de la citation. La continue, c'est tout à fait bien et je vous en dirai volontiers davantage, mais enfin, il ne faut pas abuser de votre patience. Donc, j'ai lu ces pages parce que, d'abord, je m'y retrouve, j'y reconnais ma façon de travailler, encore une fois, c'est la façon de beaucoup de gens, mais elle implique donc ce travail de la mémoire, vous voyez, non pas comme quelque chose qui serait déjà là et dans laquelle on aurait qu'à puiser. Et elle fait remarquer, d'ailleurs, je crois que c'est dans le passage que j'ai feuilleté du livre de la mémoire, qu'on a opposé en Occident, et à tort, je crois qu'elle a tout à fait raison, la mémoire et l'intelligence. Voyez, on a reproché beaucoup de choses à la mémoire. Mais c'est parce qu'on ne comprenait plus, parce qu'on confondait mémoire et procédé mnémotechnique, parce qu'on confondait mémoire et apprentissage mécanique. Au contraire, les anciens savaient que les muses étaient filles de la mémoire, petites putes peut-être, mais enfin, filles bien intéressantes. Voilà, les anciens savaient cela évidemment. Et nous avons tendance, dans la littérature moderne, ce qu'on dit de la littérature moderne, ou des processus de création, à l'oublier. Voilà. Et à remplacer trop souvent par justement des trucs mécaniques. Je ne suis pas oulipien pour deux sous, vous l'aurez compris, après tout ça, par exemple. Alors, j'avais dit que je parlerais du goût de l'âme, je ne sais pas si on a le temps ou on passe tout de suite.
Quelques mots, oui. On reste encore, oui, bon, trois quarts d'heure pour discuter ensuite.
Bon, alors, sans trop m'attarder, c'est juste pour compléter le tableau. Ce livre, Le goût de l'homme, donc, est un livre qu'on pourrait qualifier d'anthropologie, mais par quelqu'un qui n'est pas anthropologue, qui est écrivain. Alors, de ce point de vue, on est parfois gêné, moi le premier d'ailleurs, de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Je pense que la littérature, comme les psychanalystes le disent pour eux-mêmes, la littérature s'autorise d'elle-même. Les écrivains s'autorisent d'eux-mêmes, ce qui parfois peut faire grincer les dents, bien entendu. Mais c'est aussi à leurs risques et périls. C'est-à-dire que s'ils se mêlent de ce qui ne regarde pas, en se trompant ou en étant bêtes, ben tant pis. Mais acceptons que le risque soit pris. Voilà ce que je pense de tout ça. Alors, j'ai été amené à m'intéresser à Dumézil. C'est un exemplaire défectueux. Mais heureusement que c'est le mien. Défectueux chez l'éditeur. J'ai été amené à m'intéresser à Dumézil pour des raisons savantes, comme tout le monde, mais aussi pour des raisons personnelles, presque familiales. Et je le dis dans l'essai. C'est un Dumézil de la fin qui m'a tout particulièrement attiré et passionné, puisque c'est le Dumézil qui a déjà 80 ans, qui écrit les 4 volumes des Esquisses de mythologie, 4 volumes qui sont réunis maintenant dans la collection Quarto. Vous savez, la collection bien commode chez Gallimard. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et il y avait donc 4 volumes dans la collection Bibliothèque des Histoires que j'ai emporté un été pour les lire parce que les titres m'attiraient d'abord. Apollon sonore, La courtisane et les seigneurs colorés, enfin, etc. Et j'ai découvert là d'abord un testament à la fois savant et poétique. Savant au sens propre du terme, puisque Dumézil, sachant qu'il vieillit, enfin que le grand âge est là, même si sa tête est intacte, il n'aura pas le temps de venir à bout de certains problèmes qui l'intéressent. Et donc il a décidé de faire l'inventaire pour les léguer au suivant. Ces problèmes sont des problèmes de lecture. C'est-à-dire que Dumézil, vous le savez, est un philologue, autant qu'un mythologue. Enfin, c'est d'abord un philologue, et qui s'est appliqué à lire aussi rigoureusement que possible certains textes, beaucoup même. Et je dois dire que ces explications de textes ont beaucoup de charme, et elles sont la plupart du temps extrêmement convaincantes, d'autant que ce talent s'exerce dans des domaines où je ne suis pas compétent, évidemment. Enfin bon, on peut discuter ces trois fonctions, il le fait lui-même. Le Dumézil théorique n'est pas celui qui m'intéresse forcément au premier chef, mais lui-même savait que ça n'était sûrement qu'un état provisoire, que c'était une vérité discutable, mais nécessaire. Toujours est-il que j'ai lu les quatre volumes donc des esquisses de mythologie comme on lit un roman. Je peux lire de longs romans et je peux lire des essais comme on lit un roman. Voilà. D'ailleurs, réciproquement aussi. Donc j'ai lu ça, et j'ai lu ça aussi parce que mon fils, j'ai un fils qui a une trentaine d'années, et qui à l'époque s'intéressait à ce genre de choses, et il m'y avait un peu incité. Voilà. Alors j'ai lu ça aussi un peu en fonction de lui. Et puis j'avais ses livres sur le palier en partant en vacances un été, quand ce fils déjà adulte, mais étant encore à la maison, m'a interrogé comme ça entre deux portes, comme ça se fait parfois pour les questions un peu importantes. Sinon elle serait trop lourde, sur mes rapports avec mon père. Voilà, il y avait là un roman de famille qu'en écrivant j'ai essayé d'éclaircir, et il le savait. Donc il m'a posé une question comme ça, et je crois que c'est pour cela qu'arrivant en vacances, j'ai commencé par lire l'un des quatre volumes de Dumézil, et pas tout à fait par hasard, celui qui s'appelle « Le roman des jumeaux ». J'ai raconté cela au début de ce petit essai. Je me suis permis de dire « je » et d'effacer ce « je » aussi vite que possible pour dire ma lecture de Dumézil. Mais quelle lecture de Dumézil ? Justement, ce qui est presque, ce qui passe inaperçu quand on lit d'habitude, les notes en bas de page, quelques confidences, bref, le bonhomme de Dumézil. Car il est là tout entier. C'est peut-être aussi pour ça qu'il nous intéresse à ce point. C'est pas du tout un savant qui se cache. Et j'ai eu la joie, ça je me permets de le dire, c'est mes 30 secondes de vantardise, enfin, j'espère qu'il y en a pas plus. J'ai eu la joie, quand j'ai publié ce texte en revue dans la NRF, qu'on transmette, donc ça ne m'était pas adressé, c'est d'autant plus probant, un petit mot du fils de Dumézil, car il a un fils qui est analyste, il doit avoir lui-même 70 ans maintenant, au moins, et qui me disait que dans ce texte, il avait tout à fait reconnu son père, voilà, que je n'ai pas connu. Voilà. Ce qui prouve qu'il y a moyen, en lisant, de deviner quelqu'un, et parfois, justement, nous ne sommes pas toujours dans l'erreur, la fantaisie ou la divagation arbitraire. Et j'avais mis en exergue une citation de Dumézil qui met la puce à l'oreille, On croit pincer l'œuvre, on tire des lambeaux d'homme. C'est dans Dumézil et c'est de la part d'un grand savant. Qui sait très bien, lui, justement aussi, la part de l'imaginaire dans des entreprises savantes. Et, à mon avis, les grands inventeurs ou les grands savants, pour qui j'ai un profond respect dans toutes les disciplines, le savent tous. Et ils sont d'autant plus grands qu'ils ont fait la part de l'imaginaire ou de leur projection fantasmatique, comme je disais tout à l'heure, en eux-mêmes. Chez certains écrivains, c'est le cas aussi. Léris a été sans doute un ethnographe de valeur parce qu'il avait fait le compte avec lui-même dans des écrits autobiographiques. Il n'y a pas deux parts chez lui. L'une est nécessaire à l'autre. Et c'est d'ailleurs à la fin de l'essai sur Dumézil que j'ai enfin pu dire de façon claire justement, l'histoire de la naissance de mon père est grâce à la mythologie. Alors, c'est peut-être important que pour moi-même, peu importe, mais je crois que ça témoigne de la façon aussi dont nous lisons tous. Alors, je vais vous lire cette page. Voilà, c'est la fin donc de cet essai, de ce qui se présente comme un essai sur Dumézil, et qui en est vraiment un essai portrait. Mon père n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Il l'a répété si souvent que j'ai fini par le croire, mais c'est aujourd'hui que je comprends, ou que je comprends mieux, ce que signifiait pour lui et pour moi cette formule issue du fond des âges et parvenue jusqu'à nous par le bouche à oreille. Car il ne l'avait pas lu dans Ovide, encore moins dans les hymnes homériques, et j'ai beau chercher, je ne me souviens pas d'une autre expression qu'il ait empruntée à la mythologie. Aujourd'hui encore, il ignore tout, j'espère que le présent pourra rester longtemps, aujourd'hui encore, il ignore tout de l'histoire de cette mortelle engrossée par Jupiter, dont les flancs alourdis trahissent la faute aux yeux de Junon. La vengeance de l'épouse trompée sera fatale à ses mêlées, dont l'enfant imparfait, comme dit Ovide, finira sa gestation dans la cuisse du dieu, et l'on sait que l'enfant s'appelle Dionysos. Mon père n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, mais il est né de père inconnu, ce qui donne des droits aux rêves, à la légende et à l'interprétation pour les générations suivantes. Pendant toute mon enfance, et même un peu plus tard, j'ai vécu avec ce secret autour de moi, comme si l'ombre d'Hermès voltigeait dans la maison, d'autant que mon père n'a lâché son histoire que par bribes. Après quoi, de même qu'on passe de la mythologie au roman, les épisodes suivants sont moins mystérieux. Un autre enfant né d'un autre père, puis cinq autres, dont Jules Massé, maréchal Ferrand, qui donna son nom à tout le monde. Plus tard, j'ai vécu avec la peur d'engrosser les filles, la peur de recommencer la faute, de tomber à mon tour dans le piège tendu par les dieux quand ils jouent avec nous une partie truquée d'avance. Je m'aperçois que mon père fut pour moi le premier homme puisqu'il n'y avait rien ni personne avant lui. Et qu'avec sa mort que je vois venir, une partie du temps s'effondrera. C'est ainsi que l'on passe d'un aïeul tonnelier, allusion à Dumézil, d'un faux grand-père forgeron à Bacchus et Vulcain. Et des secrets de famille à la mythologie, cette comédie humaine qui se joue sans costume à des milliers de mètres d'altitude et à des siècles de distance. Voilà, je crois qu'il y a dans cette page, à peu près, tout ce qui m'a animé dans l'entreprise littéraire. Voilà, on peut se s'arrêter là parce que les autres chapitres nous ramèneraient d'autres choses, mais allez, on s'arrête là.
Merci.
Provisoirement.
Merci, je crois qu'on est resté tous un peu à savourer le goût de l'homme. L'eau en bouche, là.
Oui, amer quelquefois.
Ouais.
Pas toujours tendre, on peut continuer comme ça. Ça m'a fourni quelques dédicaces.
Oui, j'imagine. Voilà. Merci Gérard Massé. Donc je crois qu'effectivement nous tournons vers l'assistance pour solliciter des questions.
Je peux poser une question,
Marie?
Une chose dont vous n'avez pas parlé, mais qui est très présente dans le texte d'Yvonne Verdier, sur le glissement des motifs et le détail transporté, et qui est présente aussi dans les techniques mémorielles, et qui est présente aussi dans, enfin, sans doute Fabienne vous en a parlé, mais sinon vous seriez peut-être heureux de savoir que les essais de Montaigne sont aussi nés d'une transformation de la technique des lieux communs. Et voilà, la question qui me venait à l'esprit, c'était celle de la place de l'analogie. Parce qu'une expression de Dumézil que vous citez deux fois dans Le Goût de l'Homme,
ah, bah, alertée, je me répète.
Alertée par la moindre ressemblance.
Ouais.
Et ça va.
Ouais.
Deux fois parce que c'est une clé, sans doute.
Ouais.
Et pour Dumézil, et ce qui est très beau, c'est que vous. Alerté par la moindre ressemblance, ça peut être une définition de l'entreprise structurale, mais ça devient vraiment une description de la pensée analogique et de l'écriture de la reconnaissance et de la résonance que vous pratiquez vraiment, enfin, constamment dans le manteau de Fortuny, tout ça au fil de la retrouvaille,
oui,
et de la variation.
Et parfois d'un livre à l'autre.
Oui.
C'est très juste tout cela. C'est d'ailleurs aussi pourquoi, au passage, Dumézil s'est senti à l'étroit dans le structuralisme. Quand on a essayé de l'annexer à d'autres choses, dans le domaine politique cette fois, dont il s'est également défendu, mais quand on a essayé de l'annexer au structuralisme, il a regimbé. Et il avait raison, parce que cette formule alertée par la moindre ressemblance est très belle. que donc j'ai relevé, elle est typique de ce qu'on appelait tout à l'heure, de façon un peu faible, mais bon, dans la conversation, il faut bien s'autoriser les formules provisoires, comme ça, pensée poétique. Bon. C'est-à-dire qui est plus fondée sur l'analogie, la ressemblance que la démonstration, sur la monstration que la démonstration, et moins sur la logique discursive aussi. Très attaché à la narration. Au fond, quelqu'un comme Dumézil, puisqu'on fait, continuons le parallèle un instant, il ne fait que lire des récits, sans arrêt. Mais des récits qu'on ne comprend plus toujours, qui se métamorphosent, qui ont subi une transmigration. D'où le fait qu'il se déplace lui-même à travers des civilisations en suivant un fil. J'aime beaucoup cette démarche. Vous voyez. Oui, c'est aussi ce que je fais en écrivant et ce que je fais pour ma propre mémoire. Et donc, à travers Marie Caruthers, je découvrais de façon plus précise encore qu'il me semble que c'est ça que je fais, c'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi je peux passer à la photographie au lieu d'écrire aussi. C'est qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui se déplace, se métamorphose, emploie d'autres moyens, que ce soit les photographies ou les livres, les images ou les livres ne sont que des supports, mais ne sont que et trompeurs. Parce que naturellement, ça ne m'empêche pas d'essayer de faire les choses avec ardeur et de la façon la plus accomplie possible, avec les moyens dont je dispose. Voilà. Mais je sais bien aussi qu'il y a quelque chose de plus important, quelque chose qui nous dépasse, une mémoire plus longue que nous, la façon même dont les formes, ne serait-ce que sociales, elles aussi se transmettent, se changent, se déplacent, se croisent et s'entrecroisent. Ça nous échappe pour une grande partie. Il y a des réflexions de Roger Caillois à propos d'essais. Il faudrait citer Caillois. Caillois a fait des réflexions à ce propos qui sont d'une grande justesse, qui sont très remarquables. Nous maîtrisons davantage les choses que les insectes, mais au bout du compte, sur des milliards d'années, peut-être pas. Mais il serait tout à fait faux d'effacer complètement cette forme de maîtrise que nous avons, cette conscience et cette volonté dont nous disposons, parce que c'est tout à fait vrai que cela existe, en même temps que cela nous rende ivres de nous-mêmes ou convaincus de la supériorité de l'espèce, ça me gêne autant que lui. Voilà.
Et Caillois était aussi fasciné par la figure de l'analogie.
Oui, bien sûr. Bien sûr, à travers des règnes différents même. À travers des règnes différents. Il est fasciné aussi par la dissymétrie, par exemple. Vous voyez. Alors, ce qui me distinguerait, puisque bon, c'est pas si mal de procéder par différence et par. La limite avec Caillois, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup stimulé, la limite, c'est son rapport à la poésie. Caillois. C'est quelqu'un qui a une gêne vis-à-vis de la poésie, une gêne intrigante, parce que c'est quelqu'un qui a connu les surréalistes très tôt, on le sait si on connaît Caillois, qui s'est intéressé à la poésie pendant plusieurs fois, soit sous la forme de l'essai, son essai sur Saint-Jean-Pierre, soit comme traducteur, soit comme anthologiste, parce qu'il a fait une anthologie de la poésie, bon. Et en même temps, il n'arrive pas à saisir la poésie de l'intérieur. Et parce qu'il y a sans doute quelqu'un qui est trop dans la pensée réflexive. Il y a un texte de lui qui pour ça est tout à fait éclairant. Il a écrit un texte admirable qui s'appelle Art poétique. On lit rarement mieux de la poésie que ce texte de Caillois. C'est à peu près 25 fragments, c'est assez bref. Bon, c'est extraordinaire. Il a le tort et le malheur d'ajouter 200 pages de commentaires ou 150 pour commenter lui-même ces fragments qui sont pas très beaux. Là, je pense qu'il a tort. C'est un peu ennuyeux, tout simplement. Et surtout, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il a une approche de la poésie qui est comme. Il est sur une éminence, il domine très bien le paysage, il sait parfaitement tous les écueils dans lesquels peut verser la poésie, ou le poète. Mais en refusant tous ces écueils, du coup, il n'y a plus d'océan. Voilà. Il ne sait plus où nager. Et donc, le poème lui est refusé. Or, Kaiwa est quelqu'un qui en a souffert. Trop intelligent pour être poète. Et d'un autre côté, j'ai dit tout à l'heure que je me méfie de la poésie qui ne serait que l'expression spontanée, comme ça, enfin, du moi tel que tel qu'il peut vomir. Enfin, bon, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a ça. Or, là, je suis poussé dans mes retranchements. J'ai toujours eu le sentiment que d'avoir, en écrivant d'abord un livre de, enfin, quelques livres de poèmes en prose qui sont qui ont été recueillis dans la collection Poésie, d'avoir fait ce que j'ai fait depuis pour retrouver cela. Voilà. Je crois que je suis en train d'y parvenir, de renouer avec la poésie. C'est-à-dire que je suis en train, j'ai commencé quelque chose qui n'a ni citation ni nom propre. Encore que la poésie puisse être pleine de noms propres, voire l'Odyssée, voire Narval. Voilà. Mais pour des raisons toutes bêtes, c'est que ce sont comme des arrimages de la mémoire. Chez Narval, c'est particulièrement net. C'est comme les pains dans les langues. Hein. Pour ceux qui sinon fuient par tous les bouts, il faut bien. Voilà. Mais d'ailleurs, peu importe que c'est superficiel, qu'il y ait des noms propres ou pas. C'est une façon de dire que j'essaie de renouer avec vraiment la poésie. Et c'était pourquoi tout ce parcours entre deux. Parce que d'abord, je crois qu'il faut essayer d'être poète en étant ni innocent ni ignorant, ou sinon ça ne va pas très loin. Alors, il y a des écueils, je viens de les dire, mais affrontons-les. Bon. Que ça peut être aussi le parcours d'une vie. Que retrouver quelque chose qu'on a déjà connu, par quoi on est déjà passé, après de longs détours, c'est très fructueux, enfin, du moins je l'espère. Et puis qu'à partir d'un certain moment, il n'y a plus que cela à faire. Voilà. Donc le savoir m'intéressait pour nourrir finalement autre chose. Mais, c'est un peu un pari. Seulement, l'écriture du poème, quelle que soit la forme que ça prend, je dis poème, je préférerais dire poésie, parce que je ne me voyais pas non plus, par exemple, quand j'avais une trentaine d'années, j'avais déjà commencé à publier, donc je ne me voyais pas faire des recueils de poèmes comme on en a, vous savez ce que j'appelle parfois pour mon compte l'Académie du vers libre. Je ne me voyais pas moudre l'un après l'autre, mais des poèmes en vers libre ou des recueils de poèmes. Voilà. Pardon. Je ne sais pas si fou je me suis pardonné, ça c'est rien, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Ça m'aurait profondément ennuyé, découragé, mais je sentais une autre nécessité, la nécessité d'autres chemins, d'un autre parcours, pour essayer de revenir à la fin, de ce que je suis en train de décrire. Je ne peux plus vous en dire plus, d'abord parce que c'est un début, puis parce que c'est un peu secret. Bon, voilà. Je suis très sensible au fait à la construction de la vie chez les Indiens, par exemple. Je parle des Indiens d'Inde. Je suis conversé dans les mythologies ni les philosophies ce genre, j'ai pas l'âme d'un converti du tout, mais il y a une belle façon de concevoir les trois grands moments dans la vie, enfin l'apprentissage, la vie active et le renoncement. Alors, pour schématiser, mais il y a un moment où le renoncement peut s'exprimer. Alors, je ne suis pas du tout prêt à annoncer un grand nombre de plaisirs, je continuerai à boire du vin, je continuerai à voyager, enfin, etc. Mais il y a une forme intérieure du renoncement. Voilà, c'est un peu là que j'en suis. Ça ne m'empêche pas de lire Marie-Carrie Tierce. Et il me semble que c'est peut-être là qu'on peut atteindre ce qu'on nomme la poésie. Qui au XXe siècle a su... Enfin non, je ne sais pas quoi j'avais pensé. J'arrête.
Non, mais... On peut continuer à votre place, même.
Tant mieux. Bon, ne vous gênez pas.
Mais c'est parce que je voulais retourner vers...
Oui.
Oui, madame.
En lisant les trois coffrets, ça m'a beaucoup rappelé la Gradiva de Freud.
Ah, ouais.
Et je me demandais si ce texte Et c'est en quelque sorte une vraie écriture de Freud. Et en même temps,
ce serait osé.
Une désécriture, en quelque sorte, parce que toute la maîtrise qu'on retrouve chez Freud est évacuée de votre texte. Mais je voulais aussi savoir, côté mémoire, si vous voulez, où figurait Freud dans votre pensée.
C'est vrai que je n'ai pas prononcé ce nom, mais je crois que c'est assez symptomatique. Vous l'aurez trouvé aussi. Alors, évidemment, ce qui est symptomatique du point de vue de la psychanalyse, c'est toujours à double tranchant, c'est le cas de le dire, parce qu'on est coincé, c'est ce qu'on appelle le double bint, c'est pour montrer que je n'en ignore pas tout. On est coincé de toute façon, parce que soit, j'ai oublié parce que ça ne compte plus beaucoup pour moi, je crois que c'est ça ma vérité, et puis on pourrait évidemment m'entraîner du côté de la dénégation. C'est pourquoi je dis on est de toute façon coincé. Voilà. Vous ne vouliez pas le dire, c'est ça qui a du sens. Bon, voilà. Enfin, il n'y a pas que des psychanalystes malhonnêtes ou policiers. Il y en a qui sont davantage bienveillants et c'est ce qu'on doit attendre d'eux. Moi, je ne les ai pas pratiqués, sinon dans l'amitié. Alors, les trois coffrets. D'abord, je dois dire que c'est un livre que je trouve un peu raté, pour commencer. Alors, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, parce que les aveux de ce genre ne peuvent déboucher que sur de la coquetterie si on les prolonge. Donc, passons. Pour ce qui est du rapport à Freud dans ce livre, oui, il est sans doute là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce livre, d'ailleurs je l'ai dit au début, enfin, je pensais à Champollion, mais c'était avant d'écrire L'année des Égyptiens. La figure me hantait déjà. Bon. C'est lié, pour l'essentiel, l'écriture de ce livre, à une exposition qu'un ami m'a signalée. J'aime bien avoir des messagers, des truchements, vous voyez, j'aime bien qu'on m'oriente, enfin, après on fait ce qu'on veut. Un ami italien qui me connaissait assez bien, parce que c'était mon ami le plus proche pendant 2 années où j'ai vécu à Rome. Et une fois où j'y revenais, il m'a dit, il y a une exposition absolument faite pour toi, au Capitole, et il m'a signalé cette exposition, comme je le dis dans le livre, mais je le dis aussi pour les autres, avec un nom, c'était l'intitulé de l'exposition, que je ne comprenais pas, que je n'arrivais pas à mémoriser. Alors je l'ai fait répéter 2 ou 3 fois, puis après je ne pouvais plus. Donc je suis allé voir l'exposition le lendemain, et ce nom imprononçable, difficile à mémoriser, me renvoyait aussi à une histoire de nom propre, donc familial, mais ça c'est plutôt anecdotique. Et dans l'exposition, qui était consacrée à une poupée antique, et à son trousseau, qu'on avait retrouvé dans un sarcophage lors des fondations du ministère de la Justice à la fin du XIXe siècle, sur les rives du Tibre. Donc, dans cette exposition, j'ai été saisi d'abord d'un grand trouble, sans que je sache exactement pourquoi. Ça, c'est du bonheur, toujours. Parce que la déstabilisation fait qu'on sent qu'il va arriver quelque chose. Sinon, on est dans la routine et donc dans rien. Et cette espèce d'ébranlement initial m'a fait immédiatement penser qu'il y avait un rêve là-dessous. Et donc, il y avait un rêve sans contenu. C'est-à-dire le souvenir, non pas du contenu d'un rêve, mais comme je le dis au tout début du livre, le souvenir d'avoir rêvé. Donc évidemment, au XXe siècle, qui dit rêve, dit à peu près forcément Freud. Donc j'avais lu quelques livres de Freud. Ça n'est pas pour moi une lecture assidue. Il y a même alors là maintenant très longtemps que je n'en ai pas lu, mais ce n'est pas quelque chose que je rejette non plus. Voilà. Je crois que j'ai un rapport assez calme avec tout ça. Mais quand j'ai commencé à inventorier en quelque sorte ce qu'il y avait là-dessous, bon, d'abord ce rêve que dans la journée j'ai à peu près reconstitué, bon, puis ensuite tout ce que cette poupée, ce jouet antique, ces objets dans la tombe, enfin, à quoi cela me faisait penser, à quoi cela renvoyait pour moi. Donc il y a des choses qui se sont un peu comme ça déroulées, comme dans une sorte de chaîne. Alors, je me suis rendu compte que ça renvoyait à cette histoire des trois coffrets, qui pour moi était d'abord dans Shakespeare, avant d'être dans Freud, il faut bien dire. Parce que c'est objectif de toute façon. Donc il y avait Shakespeare autant que Freud, les deux. Et alors là, je suis allé y voir. Très nettement le souvenir que pendant l'écriture même du livre, en effet, je suis allé voir par là. Je suis retombé là-dessus en quelque sorte. C'est pour ça que les moments d'ignorance, tout à l'heure je condamnais l'aveuglement, quoi, parce que l'aveuglement c'est l'ignorance qui se prolonge, donc c'est un asservissement. Quoi, bon. Mais l'ignorance, au moins un temps, qui provoque la curiosité, puis l'éclaircissement, ça c'est un processus que j'aime énormément. Oui. Alors il peut y avoir ça, même dans l'écriture d'un texte poétique, ou dans l'écriture d'un texte savant aussi bien. Donc j'y ai pensé, oui.
C'est pas de question pour moi, j'en aurais une petite à vous poser sur. C'est aussi l'histoire de la poésie qui m'y fait penser. Mmh. Je ne connais pas votre preuve, je vous lirai après, vous aurez entendu. Mais,
oui, il n'y a pas de date de péremption.
Il n'y a pas de date de péremption, mais avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Il me semble que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est une position ou une figure de l'écrivain qui me fait penser beaucoup au texte de Walter Benjamin qui s'appelle Der Erzähler, ce qu'on traduit généralement mal par
le narrateur,
mais c'est le raconteur
du livre. Oui, j'ai dit spontanément le conteur.
Le conteur, c'est celui qui... Et l'écrivain, c'est quelqu'un qui récupère les histoires, les recycle, les transforme, les métamorphose. Et ces histoires ont toutes une destinée. Coutume et destin, c'est aussi c'est le titre du livre d'Yvonne Verdier, un sens très fort. C'est quelqu'un qui travaille sur un ensemble de coutumes et sur la destination de ces coutumes. Mais la question est, vous connaissez l'article de Benjamin, c'est un article sur la disparition du conteur et sur le rapport entre roman et récit. Il associe la disparition du conteur à l'émiettement ou la destruction, selon les cas, des cultures traditionnelles dans lesquelles ces fonctions étaient directement socialisées. Donc la question que je vous poserais, c'est au fond, qu'en est-il du présent? Si on définit la littérature comme la communauté des hommes qui se souviennent des récits,
des mêmes récits,
oui.
Donc il y a des communautés de lecteurs, parce qu'on ne se souvient pas tous des mêmes récits.
Comme l'ensemble des communautés des hommes qui se souviennent des récits, parce qu'on peut dire à ce moment-là que ces cercles sont toujours susceptibles de communiquer entre eux, d'une manière ou d'une autre. Mais quel lien y a-t-il avec les hommes qui sont en dehors de cette communauté? C'est-à-dire, quelle est l'inscription sociale aujourd'hui? C'est une question qui est aussi bien la nôtre, qu'elle se pose aussi bien à nous.
Se pose à tout le monde.
À nous, en tant que nous sommes aussi autrement, mais participants dans la même position dans l'histoire et participants de ce même éloignement vertigineux.
Je vous remercie de la question, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup pour la littérature et pour nous tous. D'abord, en préambule, merci d'avoir rappelé le nom de Benjamin, parce que dans les livres que je n'ai pas apportés, il y en aurait eu un de Benjamin. J'aime beaucoup chez Benjamin la variété, la diversité des approches, cette inquiétude qui est chez lui, sa qualité d'écriture, évidemment, et puis ce mélange de mémoire personnelle et de mémoire collective. Car il y a aussi chez Benjamin l'auteur de Sens unique ou d'Enfance berlinoise. Donc tout ça, vous en doutez, mais très cher. Alors je n'ai pas en mémoire très précisément le Der Erzähler, mais je l'ai lu. Et la question alors est importante parce qu'elle me préoccupe vraiment beaucoup. C'est-à-dire que où nous nous faisons des illusions rétrospectives en pensant que la littérature a nourri l'ensemble d'une communauté, a irrigué, en quelque sorte, sous des formes très diverses, a irrigué, disons, la communauté nationale, par exemple, pour ne pas partir trop loin. Pendant longtemps, où nous nous faisons des illusions rétrospectives, c'est possible, ou alors nous sommes dans un moment de perte terrible. Alors, je pense que la littérature, telle qu'on vient d'en parler ce soir, ou nous en parlons généralement, en effet, a l'air de ne plus concerner qu'un nombre restreint de gens, presque des spécialistes. Des gens dont quasiment c'est le métier. Moi, je connais très mal les États-Unis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre là-bas, c'est-à-dire que sur les campus, très bien, tout ça a de l'importance, c'est une sorte de fête de l'esprit entre gens qui se recrutent et se reconnaissent entre eux, mais par ailleurs, l'effet n'est guère visible. C'est peut-être une description tout à fait fausse, hein, mais chez nous, je vois bien quand même des changements. Alors, est-ce que c'est à cause de l'apparition de la télévision, de la distraction généralisée, du fait que le livre a beaucoup moins de place, parce que sa place lui est très naturellement disputée. Il y a plus de spectacles, il y a plus de monde. C'est peut-être ça. C'est peut-être aussi, une plus grave, que ce que propose la littérature, je ne parle pas de valeurs qu'elle transmettrait, etc., enfin, puisqu'on n'est pas moral, mais ce qu'elle propose, le genre, je parlais de plaisir, d'enchantement, de mode d'être, de... Quand je parlais d'inspiration appliquée à nos vies mêmes, il me semble qu'à travers la littérature, on peut l'apprendre. Si c'est cela qui est atteint, alors c'est plus grave encore. Quant à l'illusion rétrospective dont je me méfiais, il est probable que dans des siècles où l'illettrisme était dominant, la littérature n'est plus une existence aussi que pour une société restreinte. D'abord, cette société restreinte, classe cultivée, etc., avait une énorme importance, une influence gigantesque sur la marche des affaires du pays. Aujourd'hui, nous avons une classe politique qui peut se passer d'être cultivée. Il faut même quand elle l'est, il faut qu'elle fasse semblant de ne pas l'être. C'est aussi un retournement qui, quand même, n'est pas sans signification. Enfin, je ne peux pas le croire. Alors, il y a eu peut-être un moment intermédiaire, enfin, pour la France tout particulièrement, qui est celui du développement de l'instruction publique, un moment où la littérature était à peu près le seul vecteur des récits, du savoir, et le livre, support du savoir. Et il y a eu pendant, en gros, un grand siècle, 150 ans, peut-être, enfin, je ne sais pas, à peu près, hein, disons, comme ça. Il y a eu peut-être un moment qui nous paraissait, qui nous a paru, comme... une espèce de marche triomphale qui, enfin, ça ne pouvait être que cela, et qui constituerait une parenthèse, une exception, et nous sommes arrivés à la fin. Mais ça, ça veut dire que c'est extraordinairement difficile que d'avoir la conscience, historiquement parlant, du moment qu'on est en train de vivre. Voilà.
Oui. Bien sûr, non, mais c'est...
Je ne sais pas si c'est ça que vous...
Si, non, je veux dire, mais... c'est absolument... je veux dire, c'est une préoccupation partagée et ça donne notre travail. Enfin bon, il y a ça pose toutes sortes de questions d'ordre à la fois éthique et pratique, au sens du
faire. Pour compléter, parce que je disais, je viens d'une famille où il n'y avait pas de livres. Ce qu'il y avait, c'était un respect, et vraiment sacralisé pour le livre, que je ne vois plus guère aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe, il faudrait que je sois aussi dans une situation équivalente, et je ne suis pas. Donc c'est difficile d'apprécier ce qui a bougé, puisque soi-même on n'est plus là où on était auparavant.
Votre littérature, je ne sais pas si vous accepterez la définition, se définit comme une entreprise visant à comprendre. Pas forcément émouvoir, pas forcément...
Oui, émouvoir aussi, je veux bien. Oui. Enfin, pas dans le roman photo est sûrement plus efficace, mais voilà. il y en a peut-être plus, ça ne se fait plus.
Non. Je sais.
J'en ai lu quand j'étais gosse.
Ça a été relancé. Et peut-être que le roman photo cherche à comprendre aussi à sa manière.
Oui.
La question était sur les différentes formes de recherche, de compréhension de l'homme qui sont en jeu dans vos œuvres, parce que on a parfois l'impression d'une tension et d'une nécessité de transformation des savoirs bruts ou rationalisés de l'ethnographie, de l'anthropologie, etc. Et est-ce que ça serait une fonction de la littérature que de les rendre plus soit de découvrir ce que Dumézil a d'humain, de mettre à jour ses aveux
est-ce que... Je ne sais pas si c'est une fonction, parce qu'il y a aussi du littéraire chez Dumézil, par exemple. Mais ce que vous disiez me faisait penser au titre de Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Livre qu'on a gardé à sa parution d'ailleurs, mais enfin.
On lit aujourd'hui.
Voilà. Il y a des raisons, c'est ça, qui appartiennent aussi à la sociologie de la littérature. Enfin, bon. Donc, passons. Mais. J'aime bien ce titre et on pourrait le transposer, le décliner. Voilà. La littérature propose un usage du monde, un usage du savoir, un usage de beaucoup de choses. Donc, une transformation, oui. Un exemple, simplement. Un exemple de ce qu'on peut faire avec tout ça.
C'est l'ordre de l'exemple.
Oui, parce que je n'ai pas de... je ne suis pas grand prêtre, je n'ai pas vocation de prophète, ça se termine généralement très mal. Donc c'est prudent. Je n'ai pas de vérité à assigner. Voilà. Donc... Alors on pourrait me dire que c'est peut-être pour ça que la littérature a aussi une audience peut-être moins grande, c'est qu'elle a une vocation ou des ambitions qui sont plus restreintes. C'est possible, mais je ne vois pas comment faire autrement. Enfin, on est un peu ridicule dès qu'on monte sur ces grands chevaux. Enfin, je me sentirais ridicule, en tout cas.
Oui, je repensais en fait simplement à l'opposition qui m'est apparue assez forte, hein, entre cette anthropologie scientifique et cette connaissance de l'homme à travers ses récits, par le partage des récits.
Oui. Tout ça, c'est aussi du plaisir autant que du savoir. J'essaie de, c'est très difficile de reconstituer ce qui m'anime au moment où je me lance, en quelque sorte, où quelque chose vient m'attraper, dont j'ignorais jusque-là que cela me concernait de si près. Voilà. C'est ça qui me fait écrire. Difficile d'en dire davantage. Et puis, il y a eu un jour le cinéma muet, comme ça, m'a attrapé. Voilà. Alors, j'ai fait une orgie de cinéma muet pendant 2-3 mois. Mais je me souviens très bien ce qui s'est passé, là. Je vais essayer de le dire. Si c'est utile, mais enfin bon, allons-y. Je suis allé voir à la Cinémathèque, pour des raisons alors là, proprement littéraires, Le Voyage au Congo, celui d'André Gide, filmé par Allégret. Ça m'amusait d'aller voir ça. Et puis, j'ai vu Gide, bon, très bien, pas beaucoup d'ailleurs, mais j'ai vu d'autres choses dans le film. Et surtout, ça faisait un certain temps que je n'avais pas vu de muet. Puis c'était à la Cinémathèque, la salle a une certaine qualité. J'ai été saisi complètement par l'atmosphère du muet. C'est-à-dire le fait de voir un film sans parole. Ça m'a plongé dans un grand plaisir et dans des abîmes de réflexion tout à la fois. Comme quelque chose d'immédiatement neuf. Voilà. Ça changeait mes habitudes, tout simplement. Alors, j'ai su aussitôt que j'en ferais quelque chose. Voilà. Donc, j'ai fait ces notes du cinéma muet qui sont dans le livre qui s'appelle L'art sans parole. Et comme je m'intéressais ici à la photographie, au cirque, enfin, etc., il y avait toute une configuration là, qui s'est mise en place à ce moment-là. Mais
vous voyez que le cinéma muet n'est pas soumis à la tyrannie de l'instant.
Je sais pas, c'est autre chose en tout cas, même la façon de se mouvoir, de jouer, enfin on le sait bien. Bon, c'est comme si j'étais devant une humanité disparue, évidemment, parce qu'il y a une question de temps aussi. Là, on peut se dire quand on voit un film muet aujourd'hui qu'il n'y a plus personne, on ne voit plus que les morts. Depuis 29, ceux qui apparaissent dans les films, enfin, il y a très très peu de chances pour qu'on ait encore qu'on puisse rencontrer au coin de la rue. Donc, c'est un monde des morts. mais un monde des morts animé. Ce qui est, bon, c'est tout ce dont on rêverait d'une certaine façon, au moins à certains moments. Et puis, donc, un sentiment d'exotisme qui m'a saisi, d'exotisme esthétique, d'exotisme dans le temps, et d'exotisme puisque j'étais dans le monde des morts. Voilà. Enfin, je ne me suis pas dit tout ça aussi clairement, mais j'ai senti intérieurement que j'étais plongé dans quelque chose qui m'importait beaucoup. Et un sentiment à la fois de plénitude et d'attente. Immédiatement de très grande plénitude. Et d'attente pour ce que cette plénitude allait apporter. Donc je suis allé voir des films libanais. Heureusement, je vis à Paris, donc on n'est pas privé, il y en a toujours au programme ici ou là. Donc je suis allé voir des films libanais. Et pendant le film, comme c'est silencieux, on n'est pas gêné par les dialogues, alors je pouvais élaborer mes petites notes. Hein, voilà. Donc quand je sortais, j'avais plus qu'à les transcrire. Donc je travaillais sur le motif.
Oui, on voulait quelque chose d'assez artificiel, puisque les films muets n'étaient pas muets, mais principalement sont accompagnés de musique.
Bien entendu, bien entendu. Ils étaient musicalement accompagnés, mais je ne cherchais bien pas à recréer les conditions de projection de l'époque ou à me remettre artificiellement, alors pour le coup, de dire, ce qui m'intéressait, c'est le film muet tel qu'il est pour nous aujourd'hui. Ce que j'en vois et ce que j'en éprouve, et ce que j'en pense. Je n'ai pas beaucoup la nostalgie des tel qu'il était, ou des reconstitutions, ou des copies conformes. Ça m'atteint assez peu.
Non, mais l'impression d'être habité.
Ah oui,
De l'antériorité, ouais. et de devoir au passé quelque chose comme un recul d'identité quand même.
Oui, et puis, du temps ayant passé, depuis que j'ai commencé à écrire, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, à travers des chemins qui ont l'air de bifurquer, des détours qui étaient imprévus, une cohérence finalement qui s'installe, du moins je l'espère un peu. Mais une cohérence qui n'est pas préméditée, qui n'est pas voulue, qui n'obéit pas à un plan, c'est-à-dire qui ménage la possibilité de recueillir la surprise, de l'accueillir. Et ça, c'est un art de vivre aussi. Voilà. Quand j'achète du vin, je suis vraiment amateur. Mais oui, là, je fais pareil. Voilà, comme on recueille des renseignements, un peu de savoir, un peu d'intuition, un peu de souvenir, un peu de. Oui, bon, voilà. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un art du vivre qui s'applique pas seulement à la littérature.
Vous avez
c'est une façon de, juste une façon de faire revivre la rencontre amoureuse. Parce que ce que je décris là, c'est un peu ça.
Ouais.
Pardon.
Non, je vous en prie. Non, c'est une question. Il y a une surprise. C'était au début du moment où vous avez parlé. Vous avez parlé de la révélation. Enfin, et vous avez dit, vous avez évoqué la poésie contemporaine.
Ah oui.
Pardonnez-moi pour si je vous cite sans vous.
Non, vous avez tout à fait raison.
La poésie contemporaine. Alors j'étais surpris parce que, à vrai dire, je me serais attendu à ce que vous disiez des poètes et non pas la poésie. La poésie. Et je me suis demandé, parce que je me suis demandé que la poésie contemporaine, moi j'ai besoin de mettre des noms. C'est-à-dire que je ne sais pas contemporaine de quoi et je ne sais pas qui. Donc je vous reposerai la question, qui est poète ?
Oui, bien sûr, volontiers, oui, je réponds volontiers. Écoutez, à l'époque où j'ai commencé à lire tout ça, il y a une grande découverte, alors c'était Gilvic, qui n'est pas un poète qui compte maintenant énormément pour moi, mais qui a joué un grand rôle à un certain moment.
Qui était contemporain, effectivement. Voilà. Vous l'avez lu comme un...
Ah ben, oui, puis je l'ai connu après. Oui. Et puis... il y a eu, disons, la trilogie René Char, Henri Michaux et Francis Ponge. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose à voir, qui s'entendent guère entre eux, mais que moi, je pouvais lire aussi bien l'un que l'autre, parce qu'on n'a pas le même point de vue quand on est lecteur. C'était des influences qui se contrebalançaient un peu. Quelqu'un comme Francis Ponge, que j'ai bien connu après aussi, c'est quelqu'un qui m'a apporté le souci du métier, de du mot juste, de ne pas me laisser entraîner, je l'ai fait pourtant, mais pas trop longtemps en tout cas, par l'arbitraire. Voilà. Il y avait chez lui évidemment une espèce de contre-pied du surréalisme, etc., du lâcher tout. Et donc il m'a apporté ça beaucoup, plus le fait que son univers m'intéresse, que je trouve certains de ses poèmes parfaitement réussis, enfin qu'il y a une saveur très grande que j'apprécie énormément. Voilà. Bon, alors d'un autre côté, je lisais René Char pour être fasciné par le mystère, mais ça m'a passé. Ça m'a passé. Et je suis immensément fidèle à Michaud. Que j'ai un peu connu à la fin de sa vie aussi, parce que j'ai eu la chance qu'il s'intéresse à mes élucubrations. Voilà.
Merci, c'est très éclairant. Oui.
Voilà, c'est vous. J'avais lu Ségalène très tôt aussi. Ouais.
T'as jamais Apollinaire ?
Si, j'ai lu Apollinaire.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de. Dans ce que vous disiez, il y a beaucoup de choses apollinariennes, enfin, beaucoup de choses qui ont des résonances apollinariennes très directes. La fin de cortège, près du côté luisant de Marie-Colore.
Ouais.
Ce que vous disiez sur le rapport entre invention et innovation, tout ça,
c'est vrai.
Uniquement apollinarien.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Sur la pensée poétique. Sur le...
C'est quelqu'un à qui je ne me réfère jamais.
Ouais.
Non, c'est que j'ai lu pourtant, bien sûr.
Il n'est pas dans vous, en fait.
Non, voilà.
C'est ce que veut dire contemporain, en fait. Ce qui n'est pas votre contemporain.
Oui, j'ai assimilé au sens de la nutrition tout à l'heure.
Oui, pas votre contemporain.
Peut-être. Simplement... Oui, j'ajoutais que Ségalène a joué un grand rôle aussi, parce que j'ai découvert très tôt, j'étais lycéen, quand j'ai eu la chance de lire Ségalène. Vous savez, le volume Club français du livre, couverture rouge, où on a recueilli Stiel, peinture et cité. Et bon, je ne savais rien de Ségalène, mais ça m'a vivement intéressé tout de suite. À cause sans doute aussi des voyages, du divers, du fait que c'était pas seulement un poète qui avait écrit des poèmes. Mais bon, ça joue aussi. Quand on a 16 ou 17 ans, on n'est pas sérieux, comme disait Rimbaud, mais en dehors de ça, on est attiré aussi par des auteurs que tout le monde ne connaît pas, parce qu'ils nous appartiennent davantage. On a l'impression de les inventer, ou de contribuer à les inventer. Donc ça, pour son ego de lecteur, ça existe, hein, c'est bien.
Je peux poser une dernière question à Grenoble, pardon, je vais vous citer, mais ça m'a beaucoup frappé ce que vous avez dit. Vous parliez de certains de vos textes comme de textes d'un lecteur qui n'a pas tout à fait franchi le pas. Et c'est revenu beaucoup cette idée que vous. Non ?
Non, pas tout à fait.
Non.
Non. Vous voyez pourquoi je refuse qu'on reproduise mes propos. Non, ce n'était pas à propos de moi que j'en parlais. C'était d'une manière générale, à propos des auteurs d'une vie, par exemple.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a la trace du lecteur dans l'auteur.
Ouais.
C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas une infériorité ou un manque. Mais ce n'était pas à mon propos que j'en parlais, c'est tout. C'est juste pour préciser.
Oui, ben vous avez raison. Mais ma question, elle est dans ce sens-là, justement, de ce qui, dans votre écriture, garde non seulement le souvenir, mais aussi la forme de la lecture. Et il y a plusieurs termes que vous avez prononcés. Bon, la citation, évidemment, mais l'idée... vous avez parlé des arrimages de la mémoire, qui serait une façon de décrire la façon dont on lit un crayon à la main et dont justement on prélève un lieu, quelque chose. Et puis l'idée que vous donnez à l'écriture, enfin, parmi un de ses buts, celui de produire un exemple. Et c'est comme ça que je l'ai entendu, c'est-à-dire justement reproduire cette cristallisation d'une idée-phrase qui sera à nouveau prélevée par un de vos lecteurs. Je trouve qu'il y a là un fil et une réversibilité de la lecture et de l'écriture qui sont très forts.
Tout à fait d'accord.
Et qui,
parce qu'on est
et qui fonctionne autour
l'un et l'autre. Chez tous les auteurs alors qui se sont préoccupés de mémoire thématiquement parlant, ça apparaît immédiatement. Chez Nerval, est un lecteur qui raconte ses lectures. Proust aussi. Dans Montaigne, on n'en parle pas. Mais je vais aller plus loin que je disais les citations par commodité. Mais il y a ce qui se voit, qui est signalé comme tel. Mais on peut ajouter que c'est parce que nous avons lu tel mot, que nous employons tel mot, ça va jusque-là, oui. Que tel, et que nous employons peut-être tel mot comme une espèce de connivence secrète avec le lecteur. Quand je parle d'albatros, n'est-ce pas, pour un certain nombre de lecteurs, je renvoie à Baudelaire, alors, mais pour d'autres, ce serait à Coleridge. Vous voyez, mais en tout cas, il y a ces espèces d'indices presque subliminaux qui sont tout aussi importants que ce qui est signalé comme l'emprunt. Vous voyez, c'est pourquoi d'ailleurs on peut aussi bien écrire sans jamais les signaler.
Bon, en effet. Qu'est-ce que Montaigne appelait les têtes aussi,
oui,
par
oui,
la tête,
bien sûr,
par le, bien sûr, la tête,
oui,
en rubrique de,
oui,
la,
oui,
la,
oui,
livre
de, oui, oui, oui. Et enfin, dans mon cas, il n'y a pas que les livres. C'est ce qui se voit le plus, naturellement, parce que ça laisse une trace visible. Mais tout le reste, ce que je lis dans la rue en passant, les images que je vois, l'humeur du matin, ben, tout ça, c'est dans les livres aussi.
Oui, c'est lecture aussi.
Mais seulement ça n'est pas signalé comme tel. Donc il faut se méfier beaucoup, parce qu'il y a des... on pourrait appeler les emprunts comme ça, ou l'inspiration, comme on disait autrefois, elle vient bien de quelque chose, d'objets, de race, comme disait Marie-Caroline tout à l'heure. Or, il y a des objets qui restent là et qu'on peut encore identifier comme tels, et d'autres pas. Et de ce point de vue, c'est pour ça que la critique des sources est toute périlleuse. Parce que, par définition, elle ne peut s'appuyer que sur ce qui a laissé des traces, mais tout ce qui n'en a pas laissé. Il y a un mot de Michaud magnifique dans Poteau d'Angle qui dit à propos d'une certaine critique qui s'amuse à compter les mots, n'est-ce pas, qui reviennent des thématiques fondées sur le vocabulaire, etc. Michaud dit « Ah oui, mais les mots qu'on a évités, c'est aussi important, ceux qu'on ne voulait pas remplir. » Et ce n'est pas seulement une boutade, il a tout à fait raison. Eh oui. Il y a des traces parfaitement invisibles ou qui sont si évidentes à l'intérieur d'une culture qu'on n'a pas à les signaler. Par exemple, des poèmes qu'on a pris souvent en Occident, par erreur, comme des poèmes parfaitement spontanés, presque prime sautier, je fais allusion au haïku. Bon. Vous voyez, voilà, il suffit d'avoir un petit moment de... voilà, ce qui vous passe par la tête, c'est bien, on met ça en quelques syllabes et puis c'est réglé. Ce sont des poèmes qui appartiennent à une tradition savante et qui renvoient perpétuellement à d'autres poèmes qui ont précédé un corpus que tout le monde a en mémoire au sein d'une communauté donnée. Mais c'est comme si, est presque de trop, toute allusion à La Fontaine, n'est-ce pas, si je parle du corbeau et du renard, je ne vais pas mettre ça entre guillemets et expliquer d'où ça vient, tout le monde le sait. Alors dans la pratique du haïku au Japon, c'est la même chose. Bon.
Oui, c'est très intéressant parce que bon, c'est un propos qui a une grande portée théorique en fait, puisque c'est une invitation à considérer la mémoire textuelle à partir d'un modèle qui n'est pas celui de la citation, ou dans lequel la citation ne joue qu'un rôle relativement partiel.
Il est une instance, si vous voulez, qu'on choisit. Voilà. Parce qu'après tout, moi je cite quelquefois, mais pas tout le temps non plus. Je vous fais tout le temps des guillemets. Il m'arrive de mettre des guillemets, par exemple, même pour donner un effet de répétition ou d'écho à une phrase qui est de moi. Ça m'est arrivé.
Non, mais si on prend par exemple le cas des multiples micro-récits dans les textes de voyage de Stendhal, par exemple, il y a une énorme matière narrative qui est récupérée et réécrite sans aucun support citationnel. C'est des choses comme ça, je pense aussi.
Oui. Alors, il y a aussi la nécessité de la librairie et de l'emprunt presque coupable. Enfin bon, ça arrive. Mais, vous savez, à propos de l'emprunt ou de la citation, il y a un livre qui traite de la question, c'est celui de Michel Spindler qui s'appelle Voleur de mots, qui est un bon livre, toujours dans la collection de Bibliothèque des idées. Décidément, c'est une ligne. Bon, qui se pose la question de savoir où commence et finit le pastiche, la parodie, l'emprunt qui susceptible d'être jugé par les tribunaux, le problème se pose quand même. Plagiat, donc, en effet. Et c'est extraordinairement difficile. Alors, il prend l'exemple qu'on connaît assez bien maintenant, mais qui a été ignoré pendant très longtemps, de René Desforêts, qui recopie des passages entiers, sans en changer un mot, de tant d'auteurs dans ses livres. Bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas... coupable. Pourquoi est-ce que ça relève pas du tribunal? Eh bien, parce que finalement, c'est un livre réussi. Voilà, la conclusion de Schneider, je la résume à gros traits, au fond, c'est ça, parce qu'il n'y en a pas d'autre possible. C'est-à-dire que si c'est réussi, c'est que quelqu'un, même en recopiant, a inventé quelque chose. C'est la fable de Borges à propos de Pierre Ménard. Et là, évidemment, c'est une appréciation qui a une grande part de subjectivité, mais comment faire autrement? En droit, d'ailleurs, on protège, c'est pour ça qu'on protège la forme et jamais l'idée. C'est une très très sage mesure. Et ça a été très bien pensé. D'abord, parce que les idées, tout le monde peut les revendiquer. Donc on ne protège que la forme qui se fait appris. En droit, en propriété littéraire, artistique. Bon, on a navigué.
Voilà, justement, par. Au fil de la.
Je ne sais pas faire autrement.
Au fil, comment est-ce que je dis ? Au fil du pinceau, voilà, nous avons navigué au fil du pinceau. Donc, dans ce chou-bitsou oral, hein, merci à Gérard Massé et donc à vous aussi, aux participants de ce séminaire que nous continuerons l'année prochaine sous des formes qu'il nous reste encore à déterminer exactement. Mais en tout cas, nous avons l'intention de continuer cette entreprise et je trouve que la conclusion ici de ces réflexions sur la littérature comme usage du monde, en fait, je pense que c'est au fond, c'est aussi cela à quoi nous souhaitions réfléchir et à cette réflexion que nous souhaitions apporter des matériaux et des voix. Et je crois que, bon, pour avoir écouté tout, bien, ça m'a marqué sans que j'aie pris de notes, justement. Donc je laisse en moi la mémoire cheminer. Je laisse la mémoire. Mais si j'en prends, mais je les oublie.
Oui. Mais c'est pour ça que je ne prends pas de notes, c'est parce qu'on oublie justement.
Oui, on les prend juste pour être actifs.
Pourquoi est-ce qu'on tient un agenda ou un éphéméride? C'est pour ne pas être en contact tout seul, justement. Donc on écrit pour oublier,
ouais.
Comme sur ta boîte.
Merci encore.